Hey, la ligne est là, moi je vais aller là.
Mais vous êtes... On va couper ça.
I'm kidding.
Mais ça, c'est... Comme, on peut-tu parler de cette compagnie-là? Tu veux-tu parler de ça? Ou c'est pas
yeah, sure,
ça?
On peut parler d'Epicenter. So, Epicenter, c'est un podcast que j'ai cofondé en 2013. Fin 2013 avec un autre gars qui est un Suisse-Allemand que j'ai rencontré sur Skype à l'époque. Puis on a commencé un podcast comme à l'époque. Moi, je travaillais encore dans une digital agency. J'étais comme project manager. Je faisais des sites e-commerce à Lille, qui est dans une ville dans le nord de la France. Puis, j'ai commencé à faire ce podcast. Je connaissais rien sur le Bitcoin.
Mais c'est-tu lui qui t'a introduit au monde de la crypto?
Non, j'ai découvert la crypto. À l'époque, ça s'appelait pas la crypto. Ça s'appelait juste Bitcoin.
Bitcoin, that's
what it was. Juste Bitcoin. Like, Bitcoin was the only game in town. J'ai découvert le Bitcoin. J'étais au travail, puis comme je passais tout mon temps à lire du stuff sur le Bitcoin.
Yeah. Donc,
whatever. Puis comme, comment je peux gagner de l'argent avec ça? Puis,
comment est-ce que je peux pas faire ma job puis essayer de faire autre chose en même
ouais,
temps?
Ben, je pense que c'était juste comme un... C'était comme un geeky, comme, you know,
puis
obsession.
T'as un background. Comme
j'ai toujours été un peu technique. Comme depuis que je suis jeune, j'ai toujours été comme un espèce de computer geek. Puis yeah. Je faisais des sites quand j'avais comme 15 ans. Puis comme, j'ai tout le temps été en arrière d'un computer. So, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai commencé à écouter un podcast qui je sais plus si ça existe encore, mais ça s'appelait Let's Talk Bitcoin. Puis c'était comme The Bitcoin Podcast à l'époque. Le gars qui hostait ce podcast-là, il voulait comme créer une espèce de podcast network.
Yeah.
Puis moi, j'écoutais beaucoup de podcasts. Je voulais, tu sais, comme dabbler à faire du podcast. J'avais toujours voulu faire ça. So, ce dude a fait comme une espèce de contest où ce qu'il disait, on a notre podcast, ben on va faire comme un contest. Envoyez-nous des pilot episodes du podcast que vous voudriez faire, puis on va demander à notre communauté comme quels sont les meilleurs podcasts. Oui. Puis ceux qui gagnent vont être sur le Let's Talk Bitcoin Network.
Oh, freak.
Il y a eu comme une Skype call avec tout le monde qui voulait participer à ce projet-là. Puis Brian, mon cofondateur, il était sur ce call-là. Puis on était les deux seuls en Europe parce que tout le monde était comme aux États-Unis, whatever. Puis j'étais comme, comme tu es à Berlin, moi je suis en France, comme... On voudrait pas faire quelque chose ensemble. Comme lui était un petit peu déjà dans l'écosystème. Moi, j'avais comme un background technique, puis tu sais comme
dans l'écosystème du crypto, dans l'écosystème comme
dans l'écosystème Bitcoin. Il avait déjà lancé un meet-up à Berlin, puis je trouvais ça intéressant. Donc je fais faisons quelque chose ensemble. Puis on a lancé Epicenter ensemble. Puis c'est comme ça que ça a lancé. À l'époque, ça s'appelait Epicenter Bitcoin, mais assez tôt dans l'histoire de Epicenter, il y a eu pas juste du Bitcoin, comme Ethereum est venu comme pas longtemps après ça.
Okay.
Puis il y avait plein d'autres cryptos, puis plein d'autres altcoins qui commençaient déjà à émerger. So, on s'intéressait aussi à d'autres cryptos. Puis après, à un moment donné, comme on a juste lâché Bitcoin, aujourd'hui, ça s'appelle Epicenter. On a 409 épisodes, plus tous les bonus épisodes. On a comme 450. On est 5 ou 6 hosts. Puis on interview principalement des développeurs, des entrepreneurs, des investisseurs, du monde qui travaille dans la crypto ou autour de la crypto. On a interviewé comme tout le monde dans l'écosystème.
Non, mais seulement en Europe ou
Non, au monde
partout. Ok.
Ouais. C'est ça qui est great parce que vous autres, essentiellement, le podcast étant aussi large, toi, tu allais chercher tes guests en ligne.
Ouais.
T'sais, c'est pas comme nous autres, tu n'étais pas assis à une table.
Right.
So, je veux dire, comment est-ce que ça a commencé? Parce que moi, j'essaie juste de penser, l'année passée, en pandémie, on faisait des choses online sur Teams ou Zoom. Ouais. Ça crashait au friggin' 5-8 minutes. Ouais. Il fallait tout refaire.
Techniquement, ça a toujours été compliqué. À cette heure, il y a plus de... Comme depuis la pandémie, il y a plus d'outils. Il y a comme Zencastr, Riverside. Il y a plus de facilité à faire du podcast en ligne aujourd'hui. Mais pendant des années, nous autres, on a juste utilisé Zoom puis on demandait à nos guests de recorder locally pour avoir du bon son. Puis... Ça, c'était un peu mon obsession. Moi, j'ai toujours été comme le gars, comme, OK, il faut que tu recordes, puis il ne faut pas que tu utilises comme des earbuds, il faut que tu utilises un...
Puis qui est tough, parce que nous, on a eu, pendant la pandémie, on a reçu des invités, genre, des gens qui ont du cash, puis c'est des artistes qui gagnent très bien leur vie, juste assis en avant du laptop en train de crier, puis pas d'écouteurs, pas rien. Puis je suis comme, ben oui, on t'attendait le son, puis le son de merde.
Ouais.
Puis je suis comme, comme...
Ben moi, j'ai toujours voulu faire attention à
hopeless.
Ça. Comme,
je suis des helpless.
Ouais, je sais pas, je suis un petit peu comme obsédé par le fait qu'il faut t'es en podcast, il faut que tu aies un son.
Oui, 100%.
À minimum, il faut que la personne ait comme des earbuds. C'est oui. la moindre des choses. Puis, ben, heureusement, la plupart de nos guests sont sur un Mac, puis souvent avec des Apple earbuds. So, ça sonnait bien la plupart du temps. Il y a toujours eu des glitches. So, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de faire du podcast en ligne que ça l'était il y a 5-6 ans. Mais comme. Ouais, comme moi, j'ai toujours été là pour comme. Tu sais, des fois, le guest venait, puis je dis, sorry, man, ton setup est pas assez bon. Faut qu'on reschedule.
Reschedule complètement.
Ouais, ça, c'est ta shop.
Un petit peu anal.
Ben, vous autres, c'était un once a week. C'était un once a week show.
Toutes
pendant...
les semaines. On n'a jamais manqué une semaine.
Pendant forever.
Puis, veux pas. Moi, si je pense, en, quand moi, je consomme des balados,
je
des
dis podcasts, balado aussi.
Première chose qui me turn off, le son.
Ouais. Ben, c'est
même le thème balado? De voix.
Qu'est-ce que c'est?
Non, mais je dis comme
un podcast, c'est un friggin' audio show.
Non, mais c'est ça, je dis.
Le son est de la merde, comme tu vas pas. Ouais. Tu sais, des fois.
Même le thème de voix.
Un film, tu le son, ben, comme tu vas still le watcher. Je sais pas.
On a toujours eu un audio engineer qui, comme.
Mike,
puis mon audio engineer, il vient de la Bosnie, puis tu sais.
Es-tu aussi anal que toi?
Ben, non, plus. Tu sais, il me dit comme. L'autre fois, il me dit comme. Your voice is very nasally. You need another microphone. Tu sais, comme le micro que t'as là marche pas avec ta voix, il faut que t'aies un autre micro. J'étais comme, OK, thanks, man. OK, I'll just get another mic then.
Tu recommandais-tu, comme il savait-tu, genre, comme quelle sorte de mic serait bon
pour
toi?
Ouais, comme c'est vraiment un pro. Là.
Qu'est-ce que tu utilises? Le 7B?
J'ai un REV 320. J'ai utilisé un Audio Technica pendant des années, le AT2020. Là, j'ai acheté un Rode.
C'est ce qu'on a là?
Ouais.
Ça, je fais les petits voice-over puis les sons de bouche.
J'ai acheté un Rode. Là, j'avais oublié mon micro. J'ai acheté un Rode NT-USB. Là.
OK, oui, le nouveau.
Pas le mini, mais l'autre. Puis il marche super bien. Puis mon engineer est super content avec ça.
Ah, ouais.
C'est ça que j'allais demander, comment est-ce que lui a réagi. Là.
C'est pas un micro qui est out of this world niveau du prix. C'est ça.
But c'est USB.
C'est ça.
Ouais.
Puis, c'est pas toutes les machines qui rendent le USB. Comme pour nous autres, ici, comme il n'y a pas l'option XLR, je sais qu'ils ont commencé à sortir des hybrids.
Shure vient sortir le SV. Le SV. Anyway, il a fait une version du 7B. Comme le Shure 7B, c'est comme le mythique de broadcasters.
Yeah.
C'est ça, Rogan. Tous les gros podcasts, c'est ça qu'ils ont. Mais ils ont sorti une petite version. Je l'avais essayé pendant une semaine. Puis lui, il est USB-C et XLR.
OK.
So, il est vraiment fait pour multiplateforme. Puis il y a plein de fonctions avec le USB-C.
C'est for everyone, dans le fond.
Puis il est la moitié du prix du
7B. Moi, je pourrais geek out sur des micros pendant comme 2 heures.
Mais comme tu l'aimerais, ce Shure-là. Puis c'est justement parce que c'est le premier officiel de Shure podcasting mic.
Right.
Puis ils ont dit ça, c'est un mic de podcasting puis de streaming.
Ouais, parce que l'autre, il est trop cher, genre.
Oh, man. Ouais. Nous, des fois, on y pense, mais après ça, il en faut 4.
Ouais.
Moi, je peux pas être là. Moi, puis Jeff, on est mielleux et sensuels. Puis les autres, ils sont comme. C'est comme.
C'est pas fair.
Ouais. C'est pour ça que ça a pris longtemps que quand on a essayé les SM58, ben, au début, on a acheté 2. Puis ça aurait clashé avec l'autre Shure. Mais on aurait été obligé d'acheter 4 parce que c'est comme. Moi-même, ça m'arrête tanné, là. Puis c'est pas fair pour les guests, c'est pas le fun pour les guests.
On fait-tu un segue dans l'intro de la show?
Oh, commence-nous ça, ce show-là, Jeff.
J'ai déjà ouvert la mienne, ça.
Ah.
Bienvenue, mesdames et messieurs, à épisode 164 de Ça reste dans la cave avec Fred puis moi. Aujourd'hui, on a un importé de East Batters. Donc, un des chums de quand on était en high school. Sébastien Couture, bienvenue sur le show.
Ouais! Bienvenue, Sébastien.
Merci.
J'ai vraiment aimé l'introduction. Tu sais, ça a juste duré 14 minutes.
Puis les gens vont remarquer, puis c'est cool qu'on n'a pas dit que tu nous arrives de l'Europe et que tu habites là depuis plus de 15 ans. Parce que là, ils vont chier parce que tu n'as pas si tant d'accent que ça.
Ben, c'est ce que je disais avant, c'est comme ça
c'est
fait 3 semaines.
C'est un sur le micro qu'on a mis.
C'est une bonne chose que vous m'avez eu à la fin de mon séjour parce que je décolle demain, comme mon avion est demain à 4h30, so je décolle back à Moncton demain matin. Parce que si j'avais été ici au début de mon séjour, il y aurait eu une espèce de comme schizophrénie linguistique, puis j'aurais pas su comment vous parler normalement parce que.
C'est fou quand même comment tu te réadaptes vite, par exemple.
Trois semaines, c'est pas là long. Là. Ouais. Surtout que ça fait quand même assez longtemps que
tu. Moi, je me rappelle, un de mes chums avait été un an à Ottawa. Puis il va arriver, il venait de Pointe-Verte, il parlait pareil comme moi, un an à Ottawa. Ottawa, là, OK? Ouais. Ottawa, là.
Okay? C'est très multiculturel.
Non, non, il arrive, alors ça va les mecs? Je suis comme tabarnak. J'étais à Ottawa, là. Mais j'étais beaucoup à Gatineau. Ben oui, mais quand? Tu sais ce que je veux dire, là?
À Gatineau.
So, moi, je veux juste dire que je connais ta femme depuis que j'ai.
Oh man, t'es comme
depuis
sorti.
Que j'ai 9 ans.
Yeah. OK, t'as volé l'ami à René Louise. C'est ce que t'as fait. Yeah, yeah. That's your style.
Yeah. René, comme à décoller, s'occuper des enfants. J'étais comme, ah, Sébastien va venir faire un podcast. Elle était comme, ben là, on est comme.
Ça fait des années que j'ai pas vu Sébastien.
C'est mon ami avant le tien. J'étais comme, oui, mais on va faire un podcast. Fais un podcast, René. Là, comme tu l'auras.
C'est ça, Jeff dit à René, comme, puis, t'as-tu un podcast, toi? Puis René est comme, non, ben, t'es une chiale pas.
Puis je me rappelle encore, comme je pense à ça des fois, comme j'en parle avec ma femme, puis ça, je dis, ouais, OK, René et Jess, ça fait super longtemps qu'ils sont ensemble. Puis je me rappelle encore, comme quand on était dans le vestiaire du gym à ESN, puis t'avais été comme sur ta première date avec René, puis.
Mm-hmm. Oui, je pensais que t'allais dire quand je l'avais whippé out, c'est comme j'ai jamais fait ça.
Non, mais tu sais, comme j'ai encore ces memories-là, puis je me rappelle quand vous avez break up pendant un bout de temps, puis.
Onzième année.
Tabou.
Puis je l'avais vu au cinéma avec quelqu'un d'autre, puis oh my god!
Moi, j'étais pas prêt pour ça.
T'étais-tu au courant quand t'étais avec quelqu'un d'autre?
Oui, oui.
Comment toi, tu files là-bas de ça? Si t'as qu'à Alcida tout seul, là, tu sais.
J'étais pas un big fan.
Oh non! Hein? Le manteau de cuir était plus sec, on dirait.
J'étais content que ça n'a pas bien été. Vraiment content que ça n'a pas bien été.
Est-ce que c'est elle qui est revenue à toi, crawling back?
C'était pas une question de crawling back. C'était juste, like, oui, on s'est juste retrouvés parce que c'était.
Mais quand est-ce que ça a retrouvé une semaine après?
Non, ça, fuck, ça a duré. Comme 3 mois. Ah ouais, je me rappelle pas, ça fait longtemps. Ben, ça fait 20 ans. C'est comme longtemps.
Ben, c'est fou, hein? J'ai texté ma femme à côté, puis c'est weird de comme. C'est weird d'être avec du monde de mon âge qui ont des enfants de 12 ans.
Oh man, ouais. Ben oui.
Puis on a commencé à réaliser cette année, moi et René, qu'il y a des kids qui montent à ESN, ça c'est 15-16, que leurs parents ont gradué que nous autres, puis qui sont même plus jeunes que nous autres.
C'est fou, hein?
C'est fou,
so,
hein?
Like, juste la réalité de tout le monde est différente, mais c'est là que tu pognes comme un coup de comme « Oh! »
Oh, yeah.
Juste comme « Oh, man! »
Quand les popounes vont rentrer à ESN, c'est là…
J'aime qu'on a changé de sujet.
Mais tout
puis, by the way, c'est… the interview, c'est…
Yeah,
même, I'm interviewing you,
yeah,
bitch!
Yeah, c'est correct, ça!
Oh.
Mais… Je pense que t'allais que pas
j'ai
avec
pas
ça.
J'ai pas aimé ça.
Mais non, non! Ben, moi, réalistiquement, je veux savoir quel film que René-Louise a été voir, avec qui est-ce qu'elle a été voir. Comme, ma vie va être autour de ton 3 mois de break-up. I want to know everything.
Je sais pas quel film que c'était. Je sais que j'étais là avec une fille. J'avais été sur une date avec
Je sais que j'étais là avec René-Louise.
Qu'est-ce que c'est?
Puis je l'ai vu. Alors, je sais qu'est-ce qu'il y a le gars. Enfin, je veux pas. On connaît.
Non,
on sait qu'est-ce que c'est.
Oui, non, c'est ça.
Ben, je sais pas si je veux dire ça sur le podcast. Je sais pas si je veux name-dropper du monde.
Parce que moi, off-mic, je vais aller sur Facebook. Je vais regarder. Je vais l'analyser. Puis toutes les choses qui font mieux que Jeff, je vais le ressortir dans les prochains 6 mois. On en parlera après.
Oh my God, oui.
Mais.
Oh, ouais. Dégueulasse. Je me rappelle de ça.
Mais tout ça pour dire,
c'est pas dégueulasse, comme j'adore. Tu sais, comme. Je me rappelle à cette heure.
Yeah. Une des raisons, puis je dis, on t'a réinvité, mais ça sera pour parler de tous les défauts de Jeff. Mais toi.
J'aurais dû mettre mon manteau de cuir.
Oui. C'est, la joke, c'est Jeff avec son manteau de cuir de SN, c'est comme il était puissant.
Ah oui, oui.
Puis
oui,
depuis
oui.
qu'il l'a pu, c'est. C'est
bon, yeah.
On essaie de remonter là. On travaille sur l'estime de soi fortement, puis. Mais j'ai très hâte d'aller voir sur Facebook qu'est-ce qui est le deuxième chum à René, puis ça va être comique. Anyway, ça, c'est pour ce soir. Une des raisons, Sébastien, qu'on était vraiment heureux de te recevoir, c'est que, on va dire, toi, ta force, c'est les cryptocurrencies. Ça se dit-tu? C'est-tu même en France qui dit ça? Comment ils disent en France?
Les crypto-monnaies.
Ouais,
crypto-monnaies.
Hostie, j'aime ça.
Oui, moi, oui. Ben, je serais bien en France. Il y a crypto-actif qui est un crypto-asset, ou un actif, c'est un. Quelque chose qui a de la valeur.
Ça serait un NFT?
Non, mais sur des crypto-actifs, c'est, on va dire, c'est tout ce qui est un actif financier qui peut exister sur une blockchain. Ça peut être comme des cryptocurrencies comme Bitcoin.
Tu viens de me parler.
Non, mais comme.
Ben,
non, crypto-actifs, c'est des actifs financiers qui existent sur une blockchain qui est un
Parce que
un ledger public, puis après, ben, t'as des cryptocurrencies comme Bitcoin, t'as des NFTs, t'as d'autres types de tokens.
OK, OK, OK.
Mais cryptoactif, c'est ce qui englobe, on va dire, tout ce que, qui existe dans l'écosystème crypto qui est un actif financier.
Mais crypto-monnaie, je me vois juste marcher sur le bord d'une route en France. Je suis comme, alors, qui ici a de la crypto-monnaie, là? Ah, oh, j'aimerais ça. Mais
faut-tu mettre là, à la fin de toutes les phrases?
Oui.
En France, là?
Oui. Mmh. Je vais détruire notre réputation chez les Français. Ils ne nous consomment pas, ils ne nous consommeront plus après ça. mais c'est ça, j'aimerais prendre l'opportunité, Sébastien, parce que c'est des mots qu'on entend tout le temps. Puis beaucoup, beaucoup de gens ne veulent pas, comme tu lis, tu es comme, oh my God, je vais te mettre là parce que ça a l'air très alléchant. Tu vois les stocks aller, descendre, monter. Mmh. Puis je veux qu'on prenne l'opportunité, puis même pour moi, comme j'ai dit un peu off-mic, comme de vulgariser qu'on peut. Si tu serais à l'expliquer comme un peu, tu disais, tu avais un autre podcast que tu montais un peu dans l'optique de expliquer à ta mère.
Ouais,
ben moi,
ouais.
Je suis un peu comme ta mère avec la crypto-monnaie.
Okay.
So, j'aimerais juste qu'on prenne le temps de...
She's prettier than you. Just saying.
Ouais, mais ça, c'est à voir.
Tu vas attaquer mon estime, je vais attaquer ouais, c'est ça aussi.
Quel âge?
C'est-tu du blanc dans ta barbe? Non, c'est la mienne, ça, excuse. Ouais, du blanc. Yeah, yeah,
moi, je suis prêt à mourir à soir, Jeffrey. Non, mais... mais tout ça pour dire... Quelqu'un veut comprendre c'est quoi? Où est-ce qu'on commence avec tout ça, qui est l'univers de la crypto-monnaie?
Ouais. C'est un univers qui est... Il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup d'informations. C'est aussi c'est la force puis la faiblesse un petit peu de tout ce qui est crypto puis cryptocurrencies. C'est qu'il y a une abondance d'informations puis l'information est accessible.
Oui.
Comme, je pense qu'il y a d'autres... disciplines puis d'autres industries où ce que l'information n'est pas aussi facilement accessible. Mais dans la crypto, je veux dire, tout est open source, tout est disponible. Je veux dire, tu peux, si tu as suffisamment de temps, tu peux passer vraiment comme littéralement tout ton temps puis embaucher comme 3 personnes pour passer aussi leur temps à faire de la recherche parce qu'il y a juste comme une abondance d'informations. Mais c'est ce qui fait que aussi c'est compliqué peut-être de défricher... qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui n'est pas valable, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui n'est pas sérieux. So, je pense que ça vaut la peine de faire pas mal de recherches, mais aussi de trouver des... de suivre du monde qui ont des réputations. Comme, basically, comme... Tout le monde qui sont dans la crypto sont sur Twitter. So, like,
okay, okay.
Je veux dire, so Twitter, c'est comme la place à aller. Comme crypto Twitter, c'est là où tout se passe. Après, bon, sur les NFTs, bon, il y a pas mal de NFT projects qui ont des Discord channels. But like, Twitter, c'est comme la place centrale où tu as tout le monde. Puis si tu trouves du monde avec des bonnes réputations, puis si tu suis les bonnes personnes, c'est une bonne façon de commencer à rentrer dans l'écosystème puis commencer à avoir des bons signaux.
Quand faire tel... Mais tu crois-tu que... Puis toi, comme t'es dans la game, ça fait longtemps, tu crois-tu qu'il faut faire cette éducation-là à la base pour même rentrer puis commencer à mettre de l'argent dans ce monde-là?
Non, ben je pense que tu peux commencer à mettre de l'argent sans avoir comme une connaissance parfaite. Mais encore une fois, comme... Moi, j'ai souvent vu du monde qui n'était pas dans la crypto me dire « Ah, tiens, j'ai acheté de la crypto. » Puis c'est comme « OK, qu'est-ce que tu as acheté? » Ben, j'ai acheté comme, je sais pas, whatever. Une affaire. Je suis comme « OK, ben, ça, c'est comme un scam. » Puis c'est comme connu que c'est un scam. Puis c'est comme un pyramid scheme. Puis c'est comme le plus gros pyramid scheme du monde, tu sais.
Puis l'information est out there.
Ouais, ouais. Mais very so, well y a comme une, y a, j'ai souvent trouvé qu'il y avait comme une espèce de scission entre l'information que la communauté crypto consomme puis l'information qui est consommée par... qui circulent peut-être sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux okay. Parce que les scammers vont essayer comme d'exploiter le monde, les laymen.
C'est so, comme Reddit, comme il y a un subreddit, il y a comme le plus gros subreddit, je pense, c'est cryptocurrency.
Ouais.
Comme ça, c'est-tu...
Je pense que crypto, je ne suis pas souvent là-dessus, mais je pense que cryptocurrency, le cryptocurrency subreddit, c'est une source d'information où est-ce que tu vas avoir des bons signaux puis comme ils vont assez facilement comme discarder du stuff qui est des scams.
OK. Ça, c'était une question de Guillaume.
OK, OK.
So, ça a été directement vers, comme tu as dit Twitter, puis là, j'étais comme, OK, ben subreddit,
ouais.
ça serait souvent aussi.
Le cryptocurrency subreddit, je pense que c'est aussi une bonne source d'information. Je ne dis pas que toute l'information est sur Twitter, mais au moins, sur Twitter, il y a toutes les personnes comme réputées, yeah. puis tout l'écosystème est là, puis comme tu peux vraiment trouver tout le monde.
C'est un bon link pour aller chercher
tout. Right, ces right. gens-là, l'information que tu recherches, est-ce que c'est comme où investir, ou qu'est-ce qui est les tendances, les fluctuations, ouais. c'est plus ça?
Ben, je pense que les investissements, il y a deux choses. Il y a la technologie, puis il y a les actifs. Okay? So, il y a les blockchains qui...
You gotta build the bank.
Comment?
Faut-tu bâtir la banque avant de pouvoir mettre stuff dans la banque?
Ben, il y a la technologie blockchain, puis les cryptoactifs en tant que technologie. Puis tu peux t'intéresser là-dedans sans forcément investir. Puis après, il y a les cryptoactifs qui sont... où le prix est forcément lié à la technologie, puis aussi à des effets de marché. So,
mais si on commencerait, exemple, avec les blockchains,
okay.
comme, qui est un peu comme Jeff dit, la banque, mais ça, à la base, c'est juste des ordinateurs qui run en loop, comme c'est ça, là.
OK.
Non, c'est ça, j'ai aucune idée.
Je sais pas où c'est commencé, ça. Parce qu'on peut parler d'investissement. Alors, moi, je suis pas le genre de gars qui va donner des conseils d'investissement.
Non, mais c'est pas ça qu'on
recherche. Mais je sais pas, voulez-vous qu'on explique comment est-ce qu'une blockchain marche ou...
c'est vraiment... C'est, j'aimerais être comme, à la fin du podcast, j'aimerais être capable de... OK, je comprends comment ça marche. Je veux pas qu'être comme, OK, je m'en vais investir. Okay. Je veux juste... Parce que right. je crois que beaucoup de gens, c'est ça que... Des fois, ça vient... Moi, même à ma entreprise, j'essaie de m'éduquer. Je viens super overwhelmed. Puis je suis comme, la Banque nationale est awesome.
Okay.
Parce que la petite madame me fait un smile puis me flatte la main.
Yeah, mais c'est parce que la banque... Tu sais, comme
puis
la banque...
Je sais pas où est-ce qu'est mon argent là. L'autre jour, la madame, elle voulait rien me dire. J'ai donné beaucoup d'argent. Puis j'ai dit, je peux-tu faire ça? Elle a dit, non, ben regarde, il y a un gars qui va faire ça. J'ai dit, OK, ben, il peut-tu m'expliquer?
Right.
Elle était comme, ben, il n'y a pas grand chose à expliquer. Là. Okay. J'étais comme, ben.
C'est que c'est ben, facile aussi pour nous autres, genre, comme parce que tu vas à Easy Web, tes actifs sont là, et then tu passes à autre chose. Mais comme quand tu searches, disons, OK, ben, je vais acheter du Ethereum, ben, comme, quoi?
Right,
comme,
right.
comment? À où est-ce que je déposite? À où est-ce que je.
OK. Ben, on peut peut-être, comme, parler de. OK, so qu'est-ce qu'est le Bitcoin, qu'est-ce qu'est l'Ether?
Oui.
Puis après, peut-être comme segue vers des blockchains qui sont réputées où est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, où est-ce que les gens peuvent potentiellement aussi réfléchir à investir en achetant des actifs. So, le Bitcoin, c'est vraiment une forme de monnaie digitale décentralisée. So, ça veut juste dire que c'est une monnaie qui n'est pas éditée par une banque centrale.
OK. okay?
So, au lieu que ce soit une banque centrale qui décide, ben on va comme printer so much de trillions parce qu'il y a la pandémie ou parce qu'il y a une guerre ou parce qu'il y a whatever. Il y a un système qui est un espèce de gros registre. Okay? So, genre Bitcoin, c'est simplement juste une liste de noms et de account balance. Ça marche comme une banque. Je veux dire, comme à la banque, tu as comme, tout le monde qui a des comptes à la banque, puis il y a les balances. Ben, Bitcoin, ça marche de la même façon, dans le sens où c'est une liste d'adresses qui représentent des comptes qui peuvent appartenir à des personnes, whatever, puis les balances en Bitcoin. Le Bitcoin ne révolutionne pas comment est-ce qu'on fait de la comptabilité, comment est-ce qu'on comptabilise des choses. Qu'est-ce que le Bitcoin fait, c'est qu'il révolutionne comment est-ce qu'on arrive à être d'accord sur qu'est-ce qu'il y a dans cette liste-là.
OK.
So, à la banque, c'est la banque qui tient le registre, puis qui tient la liste, puis qui décide qui a quel argent sur leur compte, puis on leur fait confiance parce qu'ils sont régulés.
On prend pour acquis qu'ils vont faire le mieux possible avec notre argent.
Exactement. So, on fait confiance à la banque parce qu'ils sont régulés, parce qu'on fait confiance au système légal, etc., parce qu'il y a une infrastructure qui... par cascade, par la constitution, le système légal, et puis après, la régulation banque, la réglementation bancaire canadienne, internationale, et puis après, la banque, en tant que compagnie, on fait confiance à cette hiérarchie de pouvoir. 100%.
Okay? Parce que je sais que comme mon 3000 quelque chose piastre qui rentre aux deux semaines va rester 3000 quelque chose piastre.
Right.
Ce qui reste là pendant forever.
Exactement. Le Bitcoin, qu'est-ce que le Bitcoin a fait, c'est qu'il a révolutionné la comptabilisation des comptes, mais c'est qu'il a révolutionné le fait qu'on n'ait pas à faire confiance à cette hiérarchie de pouvoir et puis de loi, etc., pour être sûr que les balances sont accurate.
Sont réelles, ben oui.
Sont réelles. So, il y a... Cette liste, elle est partagée sur des milliers d'ordinateurs, puis je sais pas si on va rentrer dans ce qu'est le mining puis comment le mining marche, mais il y a des
If it segues, it works.
Il y a des miners qui reçoivent un incentive, they're incentivized pour maintenir ce registre. Qu'est-ce que ça veut dire incentivized? Ça veut dire que ils sont rémunérés quand ce qu'ils sont honnêtes, puis ils sont punis quand ce qu'ils sont malhonnêtes.
OK.
C'est ça que les blockchains finalement ont créé, c'est qu'ils ont créé un espèce de système par lequel on peut rémunérer un comportement et puis rémunérer l'honnêteté,
oui.
OK, et punir la malhonnêteté. So pour être concret, c'est-à-dire que quand ce qu'un Bitcoin miner va packager des transactions, il y a des gens qui font des transactions, il va les packager, il va miner ce bloc-là. Miner un bloc, c'est comme solver un gros puzzle vraiment compliqué.
Mais lui, c'est-tu qui offre comme l'espace de serveur?
Non, non, non.
C'est même pas ça.
Non, non. C'est un jeu où tout le monde participe au même jeu. C'est un gros puzzle. Il y a un puzzle à solver. C'est une grosse équation mathématique qui est comme un gros puzzle. Un puzzle, ça prend longtemps à faire, mais c'est rapide à vérifier. So, tu fais un puzzle, tu ne prends pas comme 10 minutes à faire ton puzzle. Puis une fois que tu as fini ton puzzle, ben, ta fille de 10 ans peut dire que le puzzle est fait.
Ben oui, okay? Il est bon.
So, c'est la même chose avec les bitcoins. So, basically, tu as comme 100 personnes dans une pièce qui font un gros puzzle, qui font chacun un puzzle. Puis à la fin, ben, y en a un qui dit « OK, j'ai mon puzzle. » Puis là, tout le monde dit « OK, yeah, ton puzzle est fait. » Cette personne-là peut se rémunérer en Bitcoin, en créant du Bitcoin, une quantité fixe. S'il essaie d'en créer plus ou moins, whatever, si ce qu'il fait n'est pas en règle avec le protocole, ben, tous les miners vont dire comme, OK, ben, nous autres, on continue à faire nos puzzles parce que toi, tu fais de la bullshit. So, basically, ta solution, elle est éliminée. Puis nous autres, on continue. Puis là, le prochain à solver le puzzle, ben, c'est lui qui va gagner les bitcoins. C'est ça le système. On fait du travail, c'est ça le proof of work. Puis je sais qu'il y a un de tes auditeurs qui a demandé c'est quoi le proof of work. Le proof of work, c'est je prouve que j'ai fait un travail. Je veux dire, si je fais un puzzle, ben, je prouve que juste en regardant le puzzle, je prouve que j'ai fait du travail, j'ai fait le puzzle.
Oui.
Ça, c'est un petit peu la même chose avec les algorithmes qui sont derrière le mining. So, une fois que tu as fait ça, ben, une fois que tu as prouvé que tu as fait ce travail-là, ben, c'est toi qui as l'opportunité de te rémunérer en Bitcoin. Donc, c'est ça la politique de création monétaire du Bitcoin. On va en parler. Et puis, écrire la nouvelle page du registre. Okay? Donc, c'est-à-dire mettre à jour les transactions qui se sont passées depuis 10 minutes.
Oui.
C'est cette nouvelle liste avec les nouvelles balances de toutes les comptes.
Puis c'est comme ça que les montants fluctuent, c'est comme ça que ça progresse.
Non, ça n'a rien à voir avec le cours du Bitcoin.
Ça
n'a pas à voir avec la valeur. Ça, c'est des mécanismes d'offre et de demande, comme pur et simple. Une fois que tu as établi que la preuve de travail, le proof of work, permet d'avoir un consensus sur l'état d'une base de données, ben, tu peux construire plein de choses là-dessus. So, c'est ça que Ethereum a fait. So, basically, Bitcoin a dit, OK, nous autres, on fait comme une espèce de digital gold. So, un Bitcoin, c'est comme, ça a des propriétés qui ressemblent à l'or. C'est scarce. C'est scarce. Il y a une rareté.
Oui, c'est ça.
Il y a une rareté. Puis,
en Acadie, scarce, get it.
OK. Il y a une rareté numérique. Puis finalement, c'est ça que les cryptos ont permis de faire, c'est de créer une espèce de rareté numérique.
Puis comment ils font, comment ils font pour maintenir cette rareté-là quand tout le monde en veut?
Ouais. C'est tout le système. Encore une fois, comme tous les mineurs jouent le même jeu, puis ils ont un incentive à jouer le même jeu que tout le monde. So, si toi, t'es mineur, puis toi, t'es mineur, puis moi, je suis mineur, hein, puis Jeff commence à comme juste créer du Bitcoin out of nowhere puis pas respecter les règles, ben nous autres, on va être comme, ben, toi, t'es out du consensus. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais, ça n'a pas d'allure. Hein. Tu crées des bitcoins, tu essaies de créer des bitcoins out of nowhere. Ben, nous autres, on va continuer à faire notre affaire, puis toutes les autres sont d'accord avec nous autres. So, comme, ta liste n'est pas valable. Tu sais ce que je veux dire?
OK.
So, c'est un consensus. Puis c'est ça qui arrive quand il y a des bitcoin forks. Quand il y a eu des forks, c'est que tu as une partie de la communauté qui est d'accord avec une réalité, puis une partie qui est d'accord avec l'autre réalité. Puis à un moment donné, ben, les listes se divergent. je veux dire, c'est des mécanismes de consensus qui existent aussi dans la société. Je veux dire, c'est du monde qui sont d'accord, puis ils sont pas d'accord, puis ben, tu as peut-être une organisation ou un groupe de monde, puis à un moment donné, ben, ils se séparent parce qu'ils sont plus d'accord, comme ça arrive dans les partis politiques, ça yeah. arrive dans les...
Bâtissent une église là, puis ils disent yeah. pas ça.
Yeah. Right, comme nous autres, on n'est plus d'accord que comme Jésus-Christ est le Savior, ben...
Qui?
Whatever, tu sais. So, la rareté, elle est créée par les règles qui gouvernent le Bitcoin. So, dans le Bitcoin, chaque fois qu'il y a un bloc qui est miné, les mineurs qui trouvent le bloc, hein, qui résoudent le puzzle, puis tout le monde voit, OK, c'est toi qui as le puzzle, ils ont le droit de créer du Bitcoin, de okay. s'octroyer ce Bitcoin. C'est la récompense qu'ils ont. So, c'est ça la récompense pour...
Ton POW.
Oui, voilà. C'est la récompense pour l'honnêteté qu'ils ont à miner le Bitcoin. Si tu fais de la preuve de travail pour rien, hein, puis si tu fais des puzzles qui n'ont pas d'allure puis qui ne sont pas en phase avec les autres, ben, tu perds de l'argent parce que ta machine tourne puis tu uses de l'électricité pour ça.
Pour rien.
C'est ça le disincentive que tu as à miner pour rien parce que tes machines te coûtent super cher à runner.
Parce
que
c'est ça, là. Comme
mais c'est ça
run pas sur des Dell SPS.
C'est là que je veux aller. Que, tu sais, exemple, ces gens-là, c'est pas juste. Ils sont sur leur téléphone, là, après faire ça.
Tu fais pas non, ça non, ton non. cours de maths.
Le puzzle qu'on essaie de résoudre, c'est un cryptographic hash algorithm, bref. Ça demande énormément de puissance de ça demande énormément d'électricité. C'est un, okay. c'est un procédé informatique qui existe sur un chip qui fait rien que ça. Comme le chip, les chips qu'ils ont, ce n'est pas les chips que vous avez dans votre machine. C'est un chip qui fait une chose.
Juste ça.
Puis ils en ont des milliers. Puis les chips comme, font des milliards d'opérations par seconde.
Sur les gens investissent real life, comme des vrais
coins. C'est vraiment de la preuve de travail. C'est-à-dire que comme le chip fait un travail, puis une fois que... il a trouvé la solution, puis tu peux vérifier cette solution en un quart de seconde.
Puis ces infrastructures-là, les gens comme qui créent ça, comme les autres, c'est leur manière d'être dans le monde du Bitcoin, puis de gagner
ben, c'est eux autres Bitcoin. C'est eux qui maintiennent le ledger, c'est eux autres qui maintiennent l'intégrité de la liste de comptes puis de balances. Puis ils sont rewardés pour ça. Ils sont rewardés pour ça parce que avoir une monnaie décentralisée digitale sans qui n'a pas besoin de l'autorité gouvernementale, ça a une valeur pour le monde qui sont dans la crypto, puis je pense pour beaucoup de monde, ça a de la valeur. Puis c'est pour ça que le Bitcoin vaut, je sais pas, comme 50 000 aujourd'hui, ou je sais pas comment ça vaut.
C'est fou, hein?
C'est justement parce qu'il y a seulement une quantité limitée de Bitcoin, puis que le Bitcoin est rare, puis qu'il y a une demande pour le Bitcoin puis les autres cryptos, que le prix du Bitcoin est passé de, je sais pas, comme 10 cents quand ça a lancé,
crazy, hein?
Jusqu'à 50 000 piastres. So, basically, Bitcoin, digital gold, decentralized digital gold. Après, Ethereum ont pris les mêmes concepts qui permettent d'avoir un consensus autour de l'état d'une base de données à un instant T. Puis ils ont dit, OK, nous autres, on va faire un espèce de decentralized computer. So, au lieu d'avoir comme un server sur AWS qui est hosté sur Amazon ou chez Azure ou Microsoft ou whatever, DigitalOcean, on va créer un computing platform, comme un endroit où tu peux développer des applications. Puis tu peux runner ces applications-là
dans
un système décentralisé. So, au lieu de faire confiance à AWS puis Amazon pour hoster ton application, l'application, elle existe sur...
Qui devient un middleman.
Voilà, qui est un middleman.
OK, mais c'est pour ça que quelqu'un l'autre jour me parlait, exemple, comme pour qu'il disait de quoi de même, mais comme l'avenir pour les musiciens, pour qu'ils appartiennent toutes leurs choses, parce que c'est genre, comme à place de mettre sur Spotify, toutes ces choses-là, il y a une plateforme justement décentralisée pour streamer la musique.
Entre autres.
Ouais. Ça va, comme c'est de quoi. OK.
Yeah.
So, c'est directement à la personne qui crée son contenu.
Exactement. So, c'est, okay. c'est là où les NFTs sont intéressants parce que les artistes et les créateurs sont aussi, on va dire, dépendants de middleman, que ce soit comme un agent ou une plateforme comme Spotify ou tu sais, un App Store ou un Music Store ou whatever, c'est des middlemen qui prennent une commission pour de l'accès à ben, une audience ou des music labels ou whatever. La relation, elle est souvent plus avantageuse pour la plateforme ou pour le middleman. Je veux dire, enfin, vous savez toutes que ben, les plateformes ont énormément de pouvoir, puis comme YouTube pour Century du monde, puis comme Spotify prend sa commission, puis Apple Store prend comme 30%. So, les NFTs, c'est aussi un actif numérique. Okay? So, c'est un objet numérique qui où il y a une rareté. C'est-à-dire qu'on peut prouver que ben, ce JPEG-là, il y en existe 4. Puis, je sais pas, il y en existe 100 ou whatever. Ou ta chanson ou ton Twitter post ou whatever. N'importe quel objet numérique, on peut prouver que celui-là, il y en a un ou il y a une quantité limitée. Puis ça permet justement à des créateurs, que ce soit un musicien ou un YouTuber ou juste comme, je sais pas, quelqu'un qui a une newsletter sur...
n'importe où.
Whatever, sur les canaux.
C'est n'importe qui.
Qui vient à la base, la même chose, exemple, « Ah, j'ai un Picasso dans mon salon, il y en a un. » J'ai, exemple, ce NFT-là qui en a seulement un, c'est une œuvre d'art, je l'ai acheté pour l'apprécier.
Right.
Puis c'est un investissement.
Exactement. Comme les mécanismes, on va dire, socio-culturels qui font que les NFT ont de la valeur sont les mêmes mécanismes qui font que les gens achètent comme des montres chères.
Non, mais c'est
à la fois parce qu'il y a une rareté, puis aussi parce que ben, c'est un... Comme, dans l'écosystème crypto, comme tout le monde qui achète comme des CryptoPunks à comme, je sais pas, comme 10 millions ou whatever.
C'est fou comment ça ben, monte vite.
Ça, c'est un status symbol. So, quand tu achètes un...
C'est comme...
Ben, un CryptoPunk, c'est comme un espèce de petit avatar pixelisé, puis il y en a comme...
C'est en 16-bit, comme c'est vraiment... Puis moi, je fais le... C'est des œuvres d'art. C'est juste, c'était... Je pense que c'est les plus gros dans ce style-là. Au niveau
des
NFT.
C'est un des premiers NFT sur Ethereum. Quand tu achètes un CryptoPunk, c'est... À la fois, tu achètes un œuvre d'art, mais c'est aussi un status symbol. C'est comme si tu achètes une Rolex. C'est une façon de signaler et de dire baller. Moi, je suis dans Ethereum depuis longtemps. C'est comme j'ai suffisamment. Soit j'ai acheté un CryptoPunk il y a longtemps au début, soit je suis un OG, ou j'ai assez d'argent pour acheter un CryptoPunk.
On fait la même chose qu'on fait en société régulière, juste digitalement.
Exactement. Puis la société va vers le digital comme. On est de plus en plus dans un monde digital, comme Facebook en train de créer des metaverse, puis tu sais, comme...
Des quoi?
Metaverse, like virtual reality world.
Oui, OK.
So, les NFTs sont un moyen de créer des objets rares, des objets où qu'il y a une... On peut prouver qu'il y en existe soit un ou 10 ou 100 ou whatever dans un monde digital.
Ben parce que je pense que c'est Koenigsegg qui fait les voitures. Ils ont créé un NFT avec une des dernières voitures. Je ne sais pas si c'est avec le Yesco ou ce que c'était un genre comme un QR code.
Ouais.
Un link à une vidéo, genre « If you have the car », si tu le parques en arrière, comme tu as le lien à cette vidéo-là, il n'y a personne, like it's nowhere else. Mm. Comme si tu l'as, si tu le mets à la bonne place, tu vois la vidéo, like that's it.
Yeah.
Mais
moi, j'imagine rentrer d'une maison dans 30 ans, puis sur les murs, c'est tout des petits hologrammes, des NFT, comme j'avais peint.
Non, mais il y a du monde qui fait ça. Comme moi, je connais du monde comme c'est des badass, NFTs là. Qui ont comme printé leurs NFTs, qui sont chez eux, puis ils se sont amusés à mettre comme des QR codes en arrière.
Qui est cool. Est-ce que tu as un CryptoPunk?
J'ai pas un CryptoPunk, mais j'ai d'autres NFTs. Comme,
OK.
Ouais.
Mais étais-tu aware des CryptoPunks quand c'était abordable?
Oui, mais... Ouais, ouais,
comment
oui.
Inside
mais pas comme...
t'étais pas intéressé?
J'ai beaucoup investi dans le crypto, mais je me suis aussi beaucoup intéressé à des choses juste d'un point de vue comme technique puis philosophique. Comme mon podcast, c'est ce qui m'a permis de juste entretenir mon intérêt.
Comme entre vous autres, est-ce que vous avez vu les NFT venir?
Ben oui, comme les premiers NFT, c'était comme les CryptoKitties puis les CryptoPunks.
Yeah.
Comme CryptoKitties, c'était en 2017. On a vu ça, mais moi, j'étais comme, OK, like, c'est comme...
Tu pensais que ça aurait pogné de main?
Non.
C'est
non.
Crazy.
Non, je pensais pas. Comme, je voyais ça à l'époque, je me disais, OK, ben, c'est like a fun blockchain game.
Yeah.
Moi, je pensais plus que c'était un use case gaming autour de la blockchain. Puis, c'est là où est-ce qu'on voit que les NFTs puis le gaming se croisent parce que... dans les games, ben, souvent, t'as des assets comme, je sais pas, si tu joues à World of Warcraft ou whatever.
Star Atlas? As-tu entendu parler de celle-là?
Ouais.
Oh, freak. ça sort, là.
Ouais.
Mais comme World of Warcraft, comme dans le temps, j'aurais eu comme un item super legendary, comme right. Le mauve, là. Pis
exactement, puis t'aurais pu le vendre sur eBay ou whatever, but...
Parce que le monde vendait leur account. Oui. Tu sais, le monde qui avait des gros accounts, là, max, hard level, après...
Parce que Eric qui m'a turné on là-dessus, il m'a fait écouter un podcast, puis c'est lui qui est en train de développer, ou c'est en train de développer, justement, Star Atlas. Et j'espère que c'est ça que ça s'appelle.
C'est un jeu?
C'est un jeu, mais c'est...
Ouais, il y en a tellement, je keep a track de tout, là.
Mais non, c'est ça, mais comme tous les assets dans le jeu... C'est basically des NFTs. Ouais.
Tu sais, nous autres, on jouait à WoW quand on était jeunes, puis je me rappelle quand il a commencé à avoir plus d'expansions comme Burning Crusade, puis Cataclysm a sorti, que les gens, c'était juste le rush de maxer out les accounts, de faire toutes les raids, puis d'être, joup, eBay. Mm. C'était comme. C'était fou de voir ça.
C'est comme vendre ta cartridge de Pokémon
non, mais c'était...
avec tous les
oui.
Pokémon dessus. Déjà,
moi, j'ai pas joué à Pokémon, j'ai pas joué à WoW en tout.
Non!
But, OK, so, you get it.
C'était comique de voir ça. Tu sais, moi, en tant que jouet, puis dans ma tête, c'est comme si je te donnerais ma cassette de Mario avec ma slot 100%. Puis on dirait, tu sais, tu get pas l'attrait. Puis en même temps, now, it makes total sense.
Ouais. So, c'est là où le use case de NFT puis gaming font du sens. C'est comme... Parce que dans les games, tu as des assets qui sont rares. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a des games qui sont développés. C'est comme des NFT, enfin, c'est des blockchain games. La game est sur la blockchain. Tu as des NFTs qui représentent des assets, comme je sais pas, comme des spaceships.
Oui.
Puis en arrêt, comme tu fais des actions avec tes spaceships, puis tu vas, je sais pas, comme dans un garage, puis tu vends ton spaceship, puis tu en achètes un autre. Mais ce qui arrive, c'est qu'en arrière de tout ça, c'est tout du stuff qui se passe sur la blockchain, puis c'est des financial markets comme in the background. Tu as des espèces de financial markets décentralisés où ce que les trades se passent.
Qui gère
toutes ces trades-là. So, puis je veux dire, ça, c'est la finance centralisée. So, c'est toutes ces applications décentralisées qui permettent de faire de la finance sur la blockchain. Ça fait des années qu'on fait ça. Ça fait des années qu'il y a des decentralized exchanges où ce que tu as comme une espèce de stock market, mais il n'y a pas de stock market. Il y a juste l'application qui est sur la blockchain, qui est gérée par le consensus, où est-ce que tu peux faire des trades, je ne sais pas, tu veux trader du Bitcoin pour du Ether ou quel
token.
Mais
quand
quel
on
token.
Voit, comme dernièrement, on a vu des fluctuations, là, beaucoup.
Right.
Qu'est-ce qui se
tu
passe?
Tu dis-tu fluctuation ou fluctuation?
Fluctuation.
OK,
je
c'est
bon. Fluctuation, fluctuation. Mais comme, quand on voit ces gros...
Ça fructifie.
Mais quand on voit les gros up and down...
Si tu pognes les bons.
Exemple, je me rappelle quand Elon a acheté un paquet ou whatever. Ouais. Mais
ça, c'est une des questions à Guillaume. Là.
Mais c'est comme... avant, c'est qu'est-ce qui se passe dans le background? C'est quoi ce qui cause ces gros mouvements-là?
Ben, ça peut être différentes choses, mais encore une fois, comme c'est le prix d'un cryptoactif, que ce soit du Bitcoin, du Ether, le prix d'un cryptoactif, que ce soit le Bitcoin, le Ether ou d'autres cryptocurrencies, c'est l'offre et la demande, c'est vraiment le marché. So, s'il y a un gros whale qui arrive puis qui vend comme plein de Bitcoin ou plein d'Ether, ou qui va détecter comme... Comme l'affaire, c'est que les exchanges, les cryptocurrency exchanges sont pas... la liquidité entre les exchanges n'est pas parfaite. So, tu peux détecter comme une opportunité d'arbitrage sur une exchange, aller sur cet exchange-là, comme vendre tous tes cryptos-là, comme si t'es un whale, je sais pas.
Comme cash out,
comme cash out ou vendre du Bitcoin pour des US dollars, puis tu vas faire crasher le prix parce qu'il n'y a pas assez de volume sur cet exchange-là pour maintenir le prix, tu sais. So, c'est pour ça que c'est plus volatile, c'est parce que le marché n'est pas parfaitement homogène comme le FX market, par exemple.
Okay, okay.
So, c'est pas encore assez mature pour être... Puis il n'y a pas encore assez de liquidité parfois dans certains exchanges pour maintenir les prix. Ça s'améliore. So, avec plus de liquidité dans les marchés, ben, les marchés sont beaucoup moins volatiles. Puis vous avez peut-être remarqué que les marchés crypto sont moins volatiles qu'avant. So, ça, c'est pour les cryptocurrencies. Les NFT, ben, c'est whatever que le monde est prêt à payer. Je veux dire, si tu es un CryptoPunk puis quelqu'un est prêt à te payer so much pour, ben, that's it. C'est comme ta maison. T'sais. Tu peux avoir une maison banale.
Mais c'est comme ici, on a vu que le marché qui a presque doublé. Là.
Right. So, tu peux avoir une maison banale ou whatever, average. Ben, qui va se vendre à un prix average, ben, si tu as une maison avec une hot tub, puis des moldings, puis un fireplace, puis ça, ben, si tu la mets sur le marché, puis si quelqu'un est prêt à te payer comme trois fois que ce qui est listé, ben, tu vas la vendre. C'est la même chose avec les...
Puis on l'a vu avec les Pokémon cards dans la dernière année, que le monde a juste geeké in, puis des cartes de papier se vendaient pour des millions.
Unreal, hein?
J'ai pas suivi ça.
T'as pas suivi ça en tout? Buddy, mais comme... Logan Paul est au forefront des Pokémon thing, mais c'est juste, il a si overhypé ça qu'il achetait des boîtes, des sealed box. Il a comme retracé toutes les sealed box de First Edition, la première édition américaine. Là.
Okay.
Puis genre comme, Puis il savait que dans chaque boîte, il savait les stats qu'il y avait différentes choses, mais il a assez hypé ça. Il a payé une boîte fermée 100 000 $.
OK.
Mais avec un gamble, ça se peut qu'il n'y a rien dedans, là.
Ouais.
Mais c'est juste, ça a assez créé un engouement que, exemple, des cartes comme de Charizard, première édition, ça décollait pour des 1 million de dollars. Ouais. Une carte que, moi, je me rappelle, dans le temps, comme, moi, j'avais une. Comme,
t'aurais dessiné
là,
dessus,
là, vous me parlez chinois. Là.
Mais c'est exemple, c'est
t'aurais
juste,
dessiné
comme,
dessus.
Non, mais exemple, comme. Moi, quand j'ai checké mes vieux livres, j'avais des First Edition, j'avais tout ça, puis j'avais une Charizard comme deuxième édition, mais c'est pour dire, cette carte-là, j'aurais pu la déchirer puis la donner à mon chum pour une barre de chocolat. Tu sais, tu sais pas. Mais ça a venu que lui a kické de la nostalgie. Là, tout le monde est comme, oh my God, je veux avoir ça. Mais là, ça crée
tout.
Right. Parce que tout le monde voulait avoir une Charizard.
Il y a eu un effet sur le marché. Sur ce gars-là a venu, il a acheté, il a... So basically, c'est vraiment Whale qui est venu.
Yep.
Il a acheté plein de, d'actifs, d'objets rares.
Oui.
Puis il a fait monter le prix du marché en faisant ça.
100%. Ouais. Puis ça pissait off beaucoup de.
Oh, friggin'
right. Parce qu'il y a des gens qui collectionnaient ça depuis qu'ils ont 12 ans. Avec. Right. Ils sont sérieux. Puis non, moi, c'est mes bébés. Puis ils sont comme, ça vaut ça. Puis là, lui arrive. Puis là, tout le monde overpay. Puis ils sont comme, tabarnak. Tu sais, ils ne voulaient pas vendre.
Ouais.
So, Guillaume avait une question, puis comme moi, j'ai une question à travers de sa question. Je ne sais pas si tu es prêt.
Qu'est-ce qui est Guillaume?
Guillaume, c'est notre chum. Shout-out.
Guillaume est...
Entre Chum Podcast.
Un autre podcast local, puis...
Okay. Avec toutes les questions, comme, il y en a une que je... Comme, je ne sais même pas si je te ferais lire. Comme,
okay.
On dirait comme je ne la suis pas. Il y a des parenthèses, des affaires comme ça. Là. Mais lui, c'est, il a dit qu'au Salvador, Bitcoin est devenu une monnaie légale.
Ouais.
Ben, comme, sais-tu... que c'est pas légal ailleurs ou c'est comme
non,
ça c'est ma question
ça, ce qui se passe au Salvador c'est intéressant parce qu'il y a différents angles comme il y a l'angle politique qui est j'ai pas suivi ce qui se passe au Salvador parfaitement mais je pense qu'il y a un angle politique où ce que le président du Salvador essaie de comme basically cash in sur l'opportunité du Bitcoin puis attirer des investisseurs. Il y a beaucoup de monde au Salvador, je pense, qui ne sont pas contents que le Bitcoin devienne une monnaie locale, une monnaie officielle.
Okay.
Parce que il y a d'autres choses à dealer avec. Enfin, il y a d'autres problèmes au Salvador que rendre le Bitcoin une monnaie officielle. Ce que ça veut dire une monnaie officielle, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui est reconnue par l'État dans le sens où ce que tu peux payer tes taxes avec. Tu peux payer... je pense qu'au Salvador, ça va être comme obligatoire. Tu es obligé, si tu as un business, de comme accepter
aussi
le Bitcoin.
Aussi.
Okay. Au contraire du Canada, où ce que le Bitcoin est légal, tu peux utiliser le Bitcoin si tu veux. Les différents pays considèrent des fois que comme le Bitcoin et les cryptos, c'est des monnaies. D'autres considèrent que c'est des commodities. En fonction de leur réglementation financière, ça peut avoir des impacts sur comment c'est taxé, ce genre de choses.
C'est que tu n'es pas obligé de l'accepter.
Mais tu n'es pas obligé d'accepter. Mais tu peux. Au Canada, tu peux avoir une business. Tu peux accepter le Bitcoin si tu veux. En fonction des lois du pays,
payer une pizza avec
soit tu payes
des taxes
dessus, soit tu
payes
pas.
Puis ça devient une autre currency. Mais t'imagines-tu que le Canada l'accepterait? Puis ça serait justement un Bitcoin vaut 50 000, puis que tu peux juste commencer à payer everything avec ça, ton mortgage, everything, ça serait...
Mais tu penses-tu que ça va coller, là? Comme Salvador, comme ça va rester le même? Y a-tu... Je sais pas si...
Je pense que c'est un coup politique. Comme moi, ce que je pense, c'est que le président essaie juste de cash in sur une opportunité. Yeah. Il a vu ça, il a vu qu'il y a plein de comme, rich Bitcoin libertarians qui sont là, puis c'est comme, ah, yeah, c'est cool, comme, on va aller investir au Salvador, on va aller créer des miners là-bas. Mais je pense que comme dans 2-3 ans, je sais pas si on parlera encore de ça.
Ça, tout le monde va à Porto Rico aussi.
Bon, à Porto Rico, c'est pour... Les Américains vont à Porto Rico parce que pour des questions fiscales. So,
mais c'est pas ça que tu appelles du tax evasion. Non.
Non, je pense que c'est plus du tax optimization.
Parce que c'est légal ce qu'ils font. C'est juste, exemple, ils font de la grosse argent ici puis ils payent des peanuts là-bas.
Ouais, comme ils vont Porto Rico, ils vont déménager au Porto Rico parce qu'ils paieront moins de taxes ou pas de taxes sur leur vente de crypto. Ouais.
Oh, that's cool. Ben, comme là, tu parlais du ETH tantôt.
Ouais.
Which is Ethereum, which is comme le the next cryptocurrency après le OG, c'était-tu...
Ouais, so
c'est comme
Bitcoin, Bitcoin, c'était comme l'idée d'avoir du decentralized digital cash ou du decentralized digital gold.
C'est comme l'original idea. C'est
right.
Comme ça. Okay.
Ethereum, ça a été l'idée de faire un decentralized world computer. So un ordinateur qui est accessible, disponible pour n'importe qui, puis tu peux développer des applications dessus, puis tu peux pas censurer les applications. So, c'est
qui,
pas comme...
Qui est l'avenir quand tu penses à ça?
Mais c'est pas comme le App Store où ce que tu peux comme Apple décide si ton application peut y aller dessus ou pas.
Oui.
Ethereum c'est ouvert as long as tu payes tes fees.
you're good to go.
You're good to go.
Vous avez eu le creator ou le... Vitalik. Je sais pas comment ça s'appelle. Vitalik sur le podcast. C'est comme ça, c'était une de nos questions. Mais une couple de fois, c'est comme... C'est-tu un stand-up guy? C'est-tu comme... C'est big, là. That's a big name in the game.
Avez-vous le créateur de Bitcoin?
Ben, le créateur de Bitcoin n'est pas connu, so je pense que la plupart du monde, je pense, savent que comme ça a été créé par... Le paper a été écrit par quelqu'un qui se nomme Satoshi Nakamoto. Mais...
So, personne ne sait qui c'est vraiment?
Mais c'est pas une vraie personne?
Ben, c'est une personne anonyme ou pseudonyme. Enfin, c'est un pseudonyme, moi.
Oh, that's crazy! Quand tu penses à ça qu'une pleine économie écrit par quelqu'un qu'on est comme...
Satoshi était actif sur les message boards au début, mais ça fait des années qu'il n'a plus été actif. Vitalik,
Est-tu toujours vivant?
Personne ne sait. My God, c'est crazy. Moi, je trouve assez ça intéressant comme univers, man, parce que c'est tout basé sur notre vouloir que ça existe.
Puis ça, c'était probablement...
tu penses à ça, c'est crazy, man. Ouais. Comme je dis, on dirait... Ça m'a groundé comme justement avec les NFT, justement que, comme tu dis avec la Rolex vaut la Rolex juste parce qu'on veut se dire que cette Rolex-là, c'est très rare et ça vaut ça. Puis moi, j'ai une Rolex, je suis flush. Comme j'ai mon petit punk de... Ça, j'ai dit à Jeff, je vais juste screenshotter des punks. Puis moi, j'ai des punks.
Mais comme Vitalik, Guillaume se demandait si tu es actually comme si c'est un good guy, si tu comme
comme Vitalik, c'est genre, la première fois que j'ai interviewé, je pense qu'il avait comme 19 ans, comme il a inventé Ethereum quand il avait 19 ans.
What? Ah, c'est one of those.
Ouais, Vitalik, c'est quelqu'un qui est super intelligent, c'est un Canadien by the way. C'est quelqu'un qui est super Canadian. Intelligent qui est qui a un focus
Mais il est encore en arrière de tout ça ou c'est plus dans ses mains?
Non, aujourd'hui, la communauté Ethereum est huge. Je pense que lui, il a essayé de un peu de se retirer. Il voulait pas être un espèce de comme tu vois, dieu d'Ethereum. Il a essayé de se retirer. Puis je pense qu'il est plus comme dans un research role. Il guide, il donne des espèces de guiding lines sur ce qu'il pense que Ethereum devrait être. Mais c'est pas lui qui prend les décisions.
Mais c'est-tu qui a vendu? Y a-tu vendu l'idée?
Il a fondé Ethereum avec d'autres personnes. Il y a eu comme plusieurs cofondateurs d'Ethereum. C'est lui qui a écrit le papier. C'est lui qui a eu l'idée de créer le Decentralized World Computer, qui est une idée qui était une amélioration sur Bitcoin. Il a été chercher une équipe de cofondateurs, pour la plupart qui sont des Canadiens. Ils ont développé Ethereum. Ils ont fait ce qu'on appelle une pre-sale, c'est-à-dire ils ont vendu des Ethers avant même que ça existait. Ils ont dit qu'on va lancer Ethereum. Si vous voulez avoir des Ethers, ben vous pouvez en acheter avec votre Bitcoin.
Kickstarter, you'll back you up.
Ouais, quelque chose comme ça, mais au lieu de payer avec Kickstarter, tu payes avec tes Bitcoins. Puis, tu te donnais comme un Bitcoin, tu avais so much d'Ether au launch. Puis quand ils ont lancé, ben, tu avais comme une espèce de communauté déjà Kickstarter de gens qui avaient des Ether qui pouvaient commencer à développer des petites applications.
Ça, c'est un world server, là, et pas juste un endroit.
Non, justement, ça marche un petit peu comme Bitcoin dans le sens où tu as plein de miners qui font runner le world computer. So, au lieu de... Comme dans Bitcoin, c'est une liste.
Tu mords ta glace. Si tu as fermé ton micro, t'es smart. C'est que ça m'a donné un saut. Sorry, Sébastien. Ça a tapé des oreilles. C'était pire que actually croquer ta glace.
Je m'excuse, non. Continue.
Non, Bitcoin, c'est une liste de names, puis de noms, puis d'account balance.
Oui.
Ethereum, c'est ce qu'on appelle une state machine. So, c'est-à-dire, quel est l'état de l'ordinateur en ce moment? So, quels sont les programmes? Puis, quelles sont les données qui sont dans les programmes? C'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'idée, c'est runner un ordinateur à plusieurs pour que les applications qui runnent dans l'ordinateur vont toujours runner de la façon que le code a été écrit. So, quand on dit dans Ethereum, code is law, ça veut dire que le code que tu écris va être runné exactement comme qui a été designé.
Pas de censure, pas rien, pas de modification. C'est
exactement,
ça.
That's it. S'il y a des bugs, well, deal with it. Tes bugs sont là, puis c'est pour ça que. On entend souvent comme des hacks sur Ethereum. C'est souvent des gens qui ont écrit du code, puis il y a des bugs dans le code, puis il y a des gens qui exploitent les bugs, puis qui sont capables de partir avec de l'argent, whatever. So, c'est pour ça qu'il faut faire auditer son code. Mais pour revenir sur Vitalik, il a créé Ethereum. Il a été très impliqué dans le projet au début. Ils ont créé la Ethereum Foundation, qui est une non-profit en Suisse, qui coordonne le développement d'Ethereum, parce que c'est un logiciel qui s'update tout le temps, qui gère aussi toute la pool d'argent qu'ils avaient au début, qui aide à financer des projets. Puis maintenant, Vitalik, il est plus dans un research role, comme il fait de la recherche, il écrit des papiers, il écrit des blog posts, il est un peu dans un rôle de réflexion intellectuelle sur...
Tu veux voir comment, qu'est-ce qu'il y a la prochaine étape, où est-ce qu'il apporte ce bébé-là, comme sa vision.
Mais finalement, ça reste à la communauté, puis je veux dire, c'est... Oui, les gens l'écoutent,
mais à la fin de la journée...
Mais à la fin de la journée, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur Ethereum, puis qui développent Ethereum, puis qui discutent sur comment est-ce que Ethereum devrait évoluer.
J'ai hâte de voir si les artistes, ça va venir, là. Les artistes, justement, regarde, moi, ma musique digitale en ligne, c'est tout sur, sur Ethereum, ouais. René avec... Parce que je sais, il y a des applications... Comme quelqu'un m'a envoyé une coupe d'audio qui est comme des compétiteurs sur papier à Spotify. C'est ouais. juste, il faut les artistes veulent mettre là. Puis après ça, c'est tout changer la culture, comment les gens consomment les choses. Puis ça prend du temps. Là. Right. Parce que moi, je suis habitué à aller sur Spotify, puis ça marche bien, puis c'est flawless, puis comme that's what it is.
Ben, on est aussi habitué d'avoir un petit warm hug de certitude, là, là, comme la confiance de savoir, comme regarde, ça fonctionne. Like, oui. Ça ici, right now, là, où est-ce qu'on est, là, comme ça, c'est le chemin, c'est le droit chemin. Oui, OK, ça nous coûte. Ça, oui, OK, il y a des pertes en lui, mais
on est prêt à payer pour la sécurité.
On est prêt à payer pour la sécurité.
C'est pour ça qu'on reste dans les banques.
De tout ce que j'entends right now,
ben, la sécurité, puis l'expérience utilisateur. Comme...
Puis ça, c'est une grosse chose. Comme, exemple, le côté monétaire, ça, disons, si on va plus sur le côté comme je consomme des médias et tout ça,
ouais.
Mais c'est sûr, moi, qu'une plateforme flawless qui fait tout ce que je veux, que je peux projeter sur Chromecast demain, puis tout ça. Parce que je me rappelle quand les podcasts sont arrivés sur Spotify, puis la première semaine et demie, tu pouvais pas le mettre sur Chromecast. Ouais. Les gens ont presque brûlé la Californie. ils ont couru en loop à Spotify juste pour... Puis parce qu'on veut ça.
Ouais.
So, c'est ça qui va être tough avec, justement, c'est les autres. Il faudra que tu arrives en étant pareil ou meilleur.
Ben, ce sera d'autres applications. Ce ne sera pas forcément comme un clone de Spotify. Non. Ça va être comme... Les NFTs, c'est un autre type d'application qui n'existe pas ou qui n'existe pas de la même façon que dans le monde hors blockchain.
Ouais, mais ça sonne comme du stuff qui se copie. Tu sais, comme moi, quand tu me parles d'un NFC, un NFT, puis tu me parles de comme un petit bonhomme, puis tout ça, mais je suis comme, regarde, whatever, copy-paste. Comme...
Non, mais c'est l'idée.
Ouais, mais justement, mais tu peux faire un copy-paste, comme, tu peux prendre une photo de ton Picasso.
Oui, yeah.
Mais c'est pas le Picasso. Si t'as pas, le NFT sur la transaction qui dit que t'as payé ce truc-là, puis ça t'appartient, puis t'as la capacité.
Account, ton account avec.
Parce que c'est story comme Bitcoin.
Dans le NFT, c'est pas le même type de token que comme Bitcoin ou Ether, ou ce que c'est comme une monnaie. Mm. Le NFT, c'est un token, encore une fois, c'est un token unique. So, quand ce que tu reçois un NFT, ben, tu sais quel. Application qui a créé ce NFT-là,
oui.
Tu sais que ce NFT-là, il y en a soit un ou quatre
ou cinq
ou
whatever.
Puis tu peux attester que c'est toi qui l'appartiens, que tu appartiens à un de ces NFTs-là. Puis si quelqu'un veut te l'acheter, ben, tu ne peux pas juste lui vendre le JPEG. Il faut que tu lui transfères le
oui,
NFT. C'est ça qui est la valeur. La valeur, genre, le JPEG ou le MP3 ou whatever qui est derrière le NFT, ça, on s'en fiche.
C'est plus un visuel.
C'est le visuel. La fierté vient du fait que tu as acheté l'affaire qui est unique. Juste comme si tu avais acheté un Picasso, ben c'est pas la même affaire. Comme si tu as pris une photo ou tu as un print qui est comme super réel. Puis qui
mais c'est
est
still
identique.
Pas la même chose.
It's still not.
C'est pas l'original.
Parce que les gens, ils ont une empreinte digitale comme unique à eux-mêmes. Là, t'sais. Parce qu'il y avait qu'au début, c'était ça. Il y avait plein de monde qui juste screenshotait. Puis comme, puis ils se moquaient des autres. J'ai la même chose que toi. Mais.
Ouais. C'est un peu frowned upon. Comme si tu mets comme ton Twitter profile comme un NFT que t'as pas, ben, le monde va juste te moquer de toi. C'est comme si tu viens à l'école avec un fake Rolex.
Non, mais c'est ça.
Parce qu'on allait à l'école avec des Rolex.
Non, mais c'est ça. Parce que tout le monde. Mais en même temps,
l'élève, j'ai vu avec une Rolex.
C'est cool de voir qu'on recrée juste whatever qu'on. Tu sais, tous ces standards-là puis ces guides-là qu'on a en société, on le recrée juste dans le monde digital, which qui est comme. Why not?
C'est comme les billes. Tu sais, quand tu avais les billes, là, il y en avait qui étaient bleus, comme tu voyais à travers, avec juste des lignes.
C'est comme, t'as rappelé-tu les Crazy Bones? C'était des petites figurines. Puis ça venait des petits paquets. Okay?
Frédéric, c'est un bébé.
On n'a pas le même âge.
Ah non, ben, c'est
moi, c'était des Pogs.
Non, mais c'est ça. Mais même à ça, y avait-tu des Pogs super rare?
Oui.
Oui.
Tu sais, ça, c'est le concept de tout ça. Je me gave que ça soit les. C'est quoi ce qu'avions les petits bonhommes, là?
Actually, super rare, c'est le nom d'une NFT startup.
Wow. Qu'est-ce que c'est le nom des petits bonhommes, les filles avaient toutes là?
LOL Dolls ou
non, les Pet Shop.
Littlest Pet Shop?
Littlest Pet Shop.
Ah ouais?
Mais là-dedans, Gabrielle, une fois, nous ouvre un. Elle dit, oh my god, ça c'est un rare. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire?
Is it on the blockchain? Non.
Non, c'est ça. Okay. C'est ça. chier, mais c'est le même concept. T'sais.
Oui, le concept est là, mais j'aime ça. Oh my God.
Guillaume, as-tu d'autres questions?
Okay. Il y a une chose que je voulais dire par, oui, par rapport à Ethereum et Bitcoin. Comme, il y a Ethereum et Bitcoin, puis c'est comme les deux, on va dire, principales blockchains qui font soit de la monnaie digitale ou du computing décentralisé. Mais après, tu as plein de copies. Comme il y a eu plein de copies de Bitcoin. So Litecoin, Dogecoin, tout ça, c'est des copies de Bitcoin qui ont essayé de faire la même chose, qui ont juste basically copié le code, qui ont fait une nouvelle blockchain, puis on dit « OK, nous autres, on va le faire un petit peu différemment, notre vision est différente » ou « la monnaie a d'autres paramètres, but basically, c'est une copie de Bitcoin. » Puis après, il y a plein de copies d'Ethereum comme Solana, Polkadot, Cosmos. Ça, ce sont aussi des blockchain plateformes qui permettent de faire des applications, mais qui ont aussi des visions différentes sur la scalability, sur combien d'applications tu peux mettre dessus. Si toutes les applications sont sur une blockchain ou si chaque application a sa propre blockchain. So, y a plein de, c'est pour ça qu'il y a 10 000 blockchains, c'est qu'il y a plein de copies du Bitcoin et du Ethereum, mais finalement, je dirais que dans tout ça, il y en a peut-être comme une vingtaine qui sont intéressantes, vraiment, qui ont des fondamentaux stables puis forts, où ce que tu peux dire, OK, si j'investis là-dedans, ben, j'ai au moins une idée que ce qu'ils font, ça a du sens, puis parce que le reste, c'est pour moi de la bullshit.
So, ils sont en train de créer justement cette confiance-là. C'est-tu, is it because it's lasting? C'est-tu parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, pas dans les OG, mais aussi juste parce que la structure est beaucoup plus stable?
Il y a un peu des deux. So, oui, tu as des plateformes qui sont plus anciennes, comme je sais pas, Cosmos, Polkadot, tout ça, qui ont une communauté où il y a des fondamentaux qui sont forts, où il y a une équipe réputée, où il y a eu beaucoup d'investissements, puis il y a des applications, puis des communautés qui se développent avec des vrais use cases. Mais tu as aussi des plateformes qui sont beaucoup plus récentes, comme Solana, par exemple. C'est une autre blockchain où tu peux faire comme 50 000 transactions par seconde. C'est super comme scalable. C'est fait pour Wall Street. Puis ben, Solana, ça existe depuis 2 ans. But c'est vraiment très bien réputé justement parce qu'il y a des fondamentaux techniques. But après, tu as plein d'autres blockchains qui ont essayé de copier Ethereum. Même s'ils sont là depuis 5-6 ans, ben, ça ne vaut rien. Puis il n'y a rien qui se passe là. Puis c'est hypé. Il y a des communautés qui vont venir comme Cardano, c'est un exemple. Parce que c'est un des cofondateurs d'Ethereum qui a créé sa propre blockchain. But OK, peut-être que techniquement, c'est intéressant. But il n'y a personne qui développe là-dessus.
Si les gens ne suivent pas, then ça ne vaut rien.
Ouais, ben l'affaire, c'est que souvent, comme parce que tu as des effets de masse sur les réseaux sociaux, tu as plein de monde qui viennent puis qui pumpent. Ça m'a fait que c'est passé comme GameStop puis tout ça. C'est des communautés qui viennent puis qui essaient de pumper le prix. Puis, like, à la fin, the price is the thing. Comme la seule affaire qu'il y a, c'est juste un prix. Puis on essaie de pumper le prix parce que ben, on pense que cette blockchain-là, c'est la blockchain qui va changer le monde. Mais il y a plein de projets qui ne servent vraiment à rien.
Avec GameStop, là, since qu'on parle de ça, moi, ça m'a tout intrigué. C'est comme, ça, c'est la communauté en ligne qui a juste fait crasher les stocks.
Ben, qui l'ont fait monter.
Qui l'ont
puis
fait
après...
monter.
Puis l'ont fait... Il y a des gens... Y a-tu des gens qui ont pu se faire de l'argent avec ça?
Ouais, il y a du monde qui ont vendu au top. Hein.
Bon, il fallait que tu sois vite, là.
Ben, il fallait...
Fallait que tu tiennes.
Ouais, mais il fallait-tu pas que tu sais que quelqu'un allait faire ça, Dan? C'est-tu pas comme... comment t'appelles ça dans Wall Street, quand tu sais d'avance que ça va vendre? Là,
c'est insider trading.
Ouais, c'est ça. C'est pas illégal, ça.
Ça sonne pas illégal en tout. Ça sonne comme de quoi tu devrais faire.
Yeah, je pense pas qu'il y avait insider trading sur GameStop, mais je pense qu'il y a du monde qui ont vendu au bon moment, qui se sont dit, OK, ben, on va pumper le prix. Mais après, les régulateurs ont réagi comme qu'ils ont réagi. Puis
ils ont juste tout formé ça.
Ils ont essayé de mettre des barrières pour que ce genre de choses n'arrive plus. Mais
puis en même temps, il faut que ça soit testé pour... Tu sais, quand je vous dis, ça peut arriver souvent, ça, là. Ou peut-être pas qu'on le savait.
Peut-être pas comme ça. Oui, il y a des stocks qui ont monté puis qui ont crashé. Mais souvent, je pense que GameStop, c'était peut-être une des premières fois où c'était comme juste du regular monde qui ont eu un impact sur une action. Puis c'est ça, je pense, qui a un peu fâché les régulateurs puis Wall Street puis comme les institutions.
Vous n'êtes pas one of us.
Parce que, je veux dire... Wall Street et les institutions font ça depuis fucking forever.
C'est comme,
il y a des régulations,
le monde qui se font wrecked, d'habitude, c'est du monde comme nous autres, c'est pas les institutions. Puis là, pour une fois, c'était les institutions. Il y a un hedge fund qui avait shorté GameStop puis qui était obligé de farmer parce qu'ils n'avaient plus d'argent.
My God!
Ben, ouais, c'est puissant. Puis,
moi, c'est ça qui était leur but. So, mission accomplished.
There you go.
Yeah.
There you go.
Moi, je trouve ça impressive.
Ben, c'est pour mon... Ben, c'est cool, man, pousser comme... Tu sais, c'est... ça montre un peu aussi comme les gens sont tannés de se faire manipuler par le système, puis comme sont tannés de rester pauvres pendant qu'ils voient des gens s'enrichir, tu sais, sur le dos, tu sais, comme c'est ça que c'est, là, comme à la base, Bitcoin, c'est exactement ça que c'est, ou comme, c'est justement comme...
C'est un hedge contre le système. Ouais.
C'est ça. C'est comme
fondamentalement, les cryptocurrencies, pour moi, c'est un alternatif au système financier qui va... On l'a vu avec la pandémie, je veux dire, comme les banques centrales print de l'argent comme,
left and right. C'est ça.
Comme si c'était rien. Comme l'argent que tu parlais tout à l'heure, comme les 3 000 piastres que tu as sur ton compte en banque, comme ces 3 000 piastres-là vaut moins en moins tous les jours. Parce qu'il y a plus d'argent dans le système.
Tu as 3 000.
La différence avec les cryptocurrencies, en tout cas celles qui sont sérieuses, c'est comme Bitcoin ou d'autres, c'est que la monetary policy, elle est transparente, elle est prévisible, elle est programmée. So, tu sais qu'il y aura juste, comme à cette date-là, il y aura so much de Bitcoin. À cette date-là, il y en aura so much. C'est la même chose avec Ethereum, comme la monetary policy, it's programmed in. T'sais, comme c'est programmed dans la blockchain. On est capable de savoir avec au niveau de confiance qu'à un moment donné, il y aura tant de cette monnaie-là. Ce qui est tout le contraire des monnaies de banque centrale. Je veux dire, 100%. Comme 40% des dollars en existence ont été printés depuis le début de la pandémie, dollars américains.
Oh my God!
40%.
That's a lot. It's a bit.
So. Ah, puis notre argent va falloir inquiéter du papier, là. Tu sais, réalistiquement, parce que juste.
Du plastique.
Avec le coût de la vie qui skyrocket, comme oui, j'ai eu 3000. Avec du gaz à 1,39, mon 3000, ben, il vaut moins qu'un gaz à 99 cents. Là.
Right.
T'sais,
ben, c'est de l'inflation.
Non, puis c'est. Mais juste comme. J'ai jamais été aussi content d'avoir acheté une maison pas chère dans le temps.
Dans le temps, oui.
Pour vrai, tu sais, nous, on a payé vraiment pas cher ici, on a rénové tout ça, mais maintenant, ici, comme la manière qu'elle est, comme il y a des gens qui parlent, comme ça fait aucun sens parce que ça vaut même pas ça.
Ouais.
So, des fois, je me dis, la personne, exemple, qui s'est acheté une maison à 200 000 dernièrement, puis que quand ça se calme, qui va à la banque.
Quand ça bosse.
Non, mais l'évaluateur va venir l'évaluer. Ah, c'est 116 ta maison. Sur exemple, t'as droit à 80% de 116 pour faire des rénaux. Puis lui, comme, moi, je dois 210 ici. Puis il est comme, waouh, I guess t'as pas de rénaux. Mais t'imagines, là, t'achètes un morceau de marde à 150, tu payes 200, tu veux faire des rénaux, oups, tu peux pas.
Ouais.
Sur ton investissement, comme, tu sais, moi ici, c'est le fun, là, comme j'ai jamais atteint ce 80%-là. Il y a une valeur que je peux tout le temps jouer avec.
Yeah.
Mais c'est très, comme, c'est crazy, là. Les jeunes ne s'achèteront jamais de maison. Où est-ce qu'ils vont prendre cet argent-là?
Ben, ouais. Je veux dire, anyways, right now, l'argent est comme free. So, take it while it lasts.
Oh non, c'est ça.
Il y a tellement d'argent, comme les banques donnent de l'argent left and right, comme les investisseurs investissent dans des startups left and right. Il y a comme, mais ça ne va pas durer encore comme 5 ans comme ça.
Mon mortgage était dû à renouveler exactement quand c'était vraiment, vraiment bas. J'étais comme... Perfect timing, parce que tout le monde ouvrait leur mortgage, payait des pénalités juste dans l'idée d'avoir ce pourcentage-là. Moi, il y a eu une alarme sur mon téléphone, ding, ding, ding. J'étais comme, oh, bon timing. So, c'était comme, c'était le fun pour une fois.
C'était pas le même chez nous.
Non, mais it was cool for once
in
my life, que, oh, un bon timing financier. C'est la première fois de ma vie. Tu sais, puis je dis, je sais pas comment j'ai sauvé.
Je peux-tu vous poser des questions? Parce que moi, j'ai des questions pour vous.
Oh my God!
As-tu vraiment des questions?
Oui.
Oh, Jesus.
Oui. Ah. J'espère que ce n'est pas par rapport au Bitcoin, parce que j'ai rien compris. Mais pour vrai, tu m'as éclairci comme les chics que les gens vont adorer.
Ben, si je peux faire un plug, so j'ai mon podcast Epicenter.
Yeah.
Qu'on
va mettre le lien.
Que vous pouvez écouter, mais qui est assez technique. Puis je ne sais pas si c'est le meilleur podcast comme pour rentrer dans le bain du crypto si vous ne connaissez rien. Mais je viens de lancer un autre podcast avec en collaboration avec une compagnie qui s'appelle Zengo, qui font un crypto wallet qui est vraiment facile à utiliser. Et puis, ça s'appelle The Zen Crypto Show. So, The Zen Crypto Show, c'est sur Spotify, YouTube, toutes les podcast plateformes. Puis, c'est vraiment comme blockchain pour des gens qui connaissent rien.
J'allais dire, dis pas dummies, parce que tu disais tantôt.
Non, non, c'est blockchain pour les non-initiés.
Yeah.
Sur le premier épisode.
Le vocabulaire.
Le premier épisode, ben, c'est comme What is Bitcoin? Okay, tout ça, c'est en anglais, ben, c'est What is Bitcoin? Deuxième épisode, What is Ethereum? Troisième épisode, c'est What is Money? T'sais, on parle vraiment de concepts, vraiment de base pour rentrer dans le bain.
I'm gonna check that
on a un épisode sur les cryptocurrencies, sur les NFTs, sur comme comment comment est-ce que les cryptocurrency wallets marchent avec des analogies, avec des exemples simples. Les épisodes sont 10 minutes de long, ça, c'est pas overwhelming.
Oh, nice, man.
C'est timé, c'est... tu sais, so, on prend vraiment le temps d'expliquer les choses. Puis...
ce serait-tu mieux d'aller écouter ça à place d'écouter ceci? Qu'on a fait aujourd'hui.
Ouais, parce que c'était un peu everywhere. Puis j'ai pas l'habitude de parler de crypto. J'ai l'habitude de parler de crypto en anglais, un peu moins en français, puis surtout pas avec comme l'accent du Nouveau-Brunswick.
Mais c'est tout vrai.
Quand tu aussi le plus loin tu geek in, je me rendais compte, quand tu étais vraiment into the weeds, là, ton accent français sortait beaucoup.
C'est ça. Alors, c'est là comme... que la crypto-monnaie. Mais pour vrai, moi, je trouvais que c'était fabuleux. Puis c'est le plus que
fabuleux.
Non, mais c'est rien que c'est le plus que j'ai ever compris cet univers-là, c'est aujourd'hui.
Yeah.
C'est autant que c'est sûr que toi qui en parles, qui en parles, c'est sûr que ça peut paraître fade puis all over the place plus. Mais pour nous, nos auditeurs, comme c'est moi, c'est le meilleur que j'ai
eu. C'est en même temps, comme dans les derniers 8 ans que vous en parliez justement sur le show, t'en parlais pas avant avec deux gars qui savaient pas que c'est the hell tu disais non plus. Tu parlais avec des gens qui étaient dans la game, qui essayaient justement de...
Qui étaient comme 100 fois plus smart que moi.
Yeah. Ouais, tu parlais pas avec deux hyperactifs et des troubles d'attention. Là.
Mais c'était the tables were a little turned, là, c'est ça que tu dis.
Ouais, mais non, mais comme la plupart du monde qui vient sur mon podcast sont comme... super smart, puis comme même moi, des fois, je suis « What are you talking about? »
Ben, ce monde-là, comme si tu, vous autres, je sais au début, c'est sûrement vous autres qui allez chercher ce monde-là.
Ouais.
Ben, comme, after a while, il n'avait-tu qui reach out, puis qui disait...
On se fait beaucoup contacter, on se fait beaucoup contacter. On va dire, les projets qu'on veut interviewer, on les contacte, puis ils sont contents de venir.
Ils sont comme « Oui, OK. »
Parce qu'on a une réputation, puis on a une réputation qu'on veut garder comme étant... vraiment comme un signal, comme un voice of reason, puis comme un solid signal. Mais on s'est beaucoup contacté par plein de projets. On s'est dit, OK, c'est pas intéressant. Ou c'est...
Tu veux pas associer ton nom à de quoi? Okay. Parce que tu veux pas créer un hype sur quoi qui crash.
Tu penses que c'est pour ça que Tommy est pas venu encore?
Oui, ça, Pascal veut pas s'associer à nous. Mais tu disais, Sébastien, il y avait une couple de questions. Avant qu'on finisse, on va te laisser.
Juste avant d'y aller là, parce que je pense que les gens vont peut-être aussi comme vouloir peut-être acheter des cryptos. So, une bonne chose à faire comme au début, c'est OK, juste créer un compte sur genre Coinbase ou Kraken ou comme un exchange réputé. Puis je pense que Coinbase ou Kraken, c'est deux exchanges qui sont réputés. Et puis juste comme, ou même comme même dans une application comme Zengo, puis juste comme acheter un petit peu de Bitcoin ou un petit peu d'Ether. C'est pas obligé d'être beaucoup, ça peut être 100$, ça peut être 50$, mais juste comme pour se mettre les pieds dedans, c'est la première chose à faire. So, de l'argent, il ne faut pas mettre tout son argent là-dedans, mais juste de l'argent, du disposable cash,
oui.
En acheter un petit peu, voir comment les marchés fluctuent. Puis, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est comme, OK, bon, il y a différentes stratégies de risque. Tu peux dire, OK, je vais all-in sur Solana, par exemple, je vais acheter comme 10 000 pièces de Solana. OK, fine. Si tu es confortable avec ça, fine. Mais une stratégie, on va dire, moyen risque, c'est faire comme si c'était un placement comme dans un RSP. T'sais, tu dis, OK, ben, j'ai 100$ par mois ou 200$ par mois ou 500$ par mois. Je vais me faire mon portfolio. Je vais dire, OK, peut-être un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ether, un petit peu de Cosmos ou Solana, whatever, comme les cryptos que tu as envie d'acheter. Puis, ben, tous les mois, ben, tu prends de l'argent de ton compte bancaire, tu l'envoies sur l'exchange comme Coinbase ou Kraken, puis tu achètes ça, puis tu accumules. C'est de l'accumulation. So, pour moi, c'est une stratégie qui, à long terme, va être beaucoup plus fructifiante comme...
Fructifiant.
Jesus Christ.
Que juste comme tout mettre son cash sur une crypto, surtout si on n'a pas toutes les notions puis les connaissances du marché. Puis en général, ben, les cryptos qu'on trouve sur Coinbase, ben, c'est des cryptos qui sont vetted puis qui sont comme réputés ou ce qu'il y a des vrais use cases derrière.
Y a-t-il comme un blue check mark?
Il n'y a pas un blue check mark, ben, comme sur Coinbase. Ben, je ne sais pas toutes les cryptos qui sont sur Coinbase, mais je veux dire, je serais. La plupart qui sont là, je pense, j'en ai, puis je serais confortable à les avoir sur mon portfolio. Tu sais.
Yeah. OK, OK. Okay.
So, yeah, les questions que j'ai pour vous. Ouais.
Oui, moi, comme je vais acheter les bitcoins après.
Bon, ben, on peut le faire. Literally, on pourrait le faire ici. Comme ça prend,
mais c'est quoi, comme, ça fait longtemps parce que je suis tanné de dumper du cash à la banque, puis personne ne peut m'expliquer rien.
Right.
Puis comme justement du troll
c'est,
cash.
C'est le fun quand tu vas à la banque, puis tu dis, je peux savoir 8 000$. Puis ils ont comme, ah, ben ça va prendre 3 jours avant que je peux te donner ça, ben non.
C'est mon argent.
Si je l'ai dans, comme, garde mon compte, j'en ai 13, disons. Ouais. Ben, comme, donne.
Yeah. Oui, c'est pour ça que je cache mon cold hard cash ici, jusqu'à dans chez où le mettre. Bon, question, Sébastien.
So, comme.
Jeffrey Joseph,
qu'est-ce que.
Fred Guitar.
Comment est-ce que c'est de vivre à Bathurst en ce moment, à votre âge? Comment est-ce que c'est de vivre au New Brunswick? Comme, c'est-tu le fun? C'est-tu dur? C'est-tu... Comme...
honnêtement, à 36 ans, deux enfants, je ne me vois pas vivre ailleurs. Non. Dans le sens que comme à tous les jours, quand on va travailler ou on va à l'école ou on prend le drive ou n'importe quoi, je passe sur le pont de la ville without a miss. Il n'y a pas de journée que je le fais que je ne me tourne pas comme... C'est donc bien beau ici. C'est donc bien beau ici.
Moi, je fais que... Ouais, c'est même un peu le même principe. Comme, je fais le right now, c'est le meilleur temps qu'il y ait ever. Comme, c'est sûr...
Y a-t-il une bubble qui est plus pandémie-free que Bathurst, ben, right now?
C'est l'idée aussi, comme, justement, ce sentiment de... Moi, durant la pandémie, tu sais, nous ici, on n'a pas de voisins.
Ouais.
Moi, exemple, j'étais à la maison, l'école était fermée, j'avais mes filles ici, on barrait la porte le matin, il n'y a rien qui se passe. Ouais. On est en sécurité. On avait ce luxe-là d'être un peu seul. Ben, puis c'est sûr, des fois, les gens parlent au niveau comme... Tu sais, il n'y en a plus de smelter. Il n'y aura plus ces grosses opportunités-là. Mais ben, en même temps, je n'irai pas travailler au smelter puis donner ma vie. So, je trouve que autant qu'il n'y a plus ces grosses jobs-là, ce qui est de disponible, ça s'adapte à notre génération qui est, on veut être plus free, on veut être plus artistique, on veut être plus dans la communauté en train de créer. Puis ces opportunités-là sont là au Nouveau-Brunswick. Puis c'est cool parce qu'ils commencent. Tu sais, moi, je suis beaucoup sur la scène artistique avec le stand-up, avec tout ça, avec le podcasting. Comme, je veux pas, on est un des premiers podcasts francophones au Nouveau-Brunswick.
Yeah. Ben, c'est
comment, comment cool que c'est d'être capable de faire ça puis de grandir avec... Tu sais, t'arrives au stade, là, ben, t'es un autre podcast.
Ouais.
So, je trouve pour les... Je trouve ça... Je trouve c'est... Comme je dis, je vois pas pourquoi un jeune ne voudrait pas être ici. Parce que tout est à venir.
Ouais.
Tu sais, tout s'en vient. Tout est... Je sais pas. Tu penses sur revenir des fois?
Ben... c'est sûr que j'ai, avec l'âge, en vieillissant, puis à chaque fois que je viens, j'ai plus, je ne dirais pas que j'ai l'envie de venir, mais ça me manque.
Yeah.
Je ne sais pas aussi, c'est peut-être aussi comme mes parents qui vieillissent, puis ça, puis j'ai envie de passer du temps avec eux autres. C'est sûr que le fait de ne pas venir pendant deux ans avec la pandémie, ça a été difficile.
Ah,
comme j'étais censé venir comme l'année passée, je n'ai pas pu venir. Mm-hmm. Mais je sais pas, je pense que pour moi, ayant vécu en Europe, ça fait 15 ans que je vis en France, j'aime beaucoup comme... L'Europe, c'est comme un condensé de plein de bonnes choses,
yeah.
Comme plein de choses super intéressantes. Je pense que ça me manquerait.
100%.
Mais après, comme à chaque fois que je viens ici, j'ai comme un great time. T'sais.
Si je file que être ici, puis pour faire un lien avec ce qu'on a parlé de le long, c'est un investissement.
Ouais,
parce que c'est pas à son 100%, mais c'est en train de devenir. Tu gardes le downtown, tu gardes la vie, tu gardes les jeunes qui reviennent. Puis on fait un retour aux petites business, aux agriculteurs, aux gens. Puis so, je file, right now, être ici, c'est un investissement. Avoir acheté une maison 5 ans passés dans la région de Bathurst, c'est un investissement parce que les gens vont vouloir revenir, puis les gens vont... C'est sûr, c'est pas le rythme de vie d'une grosse ville.
Ouais.
Puis des fois, comme, tu sais, moi, j'ai étudié à Ottawa, puis c'est sûr, des fois, ça manque, ce beat-là. Ouais. Mais encore une fois, quand je prends un recul, père de deux enfants, je voudrais pas être dans une ville.
Ouais.
Je pense aussi avec les distances qui rétrécissent de plus en plus, comme le digital fait que... Tu sais, je veux dire, tu peux FaceTimer avec ta mère anytime.
Ouais,
tu sais, comme tu peux, là. C'est sur... comme la distance qui est moins, c'est l'idée que tu peux être ici puis still travailler autant, surtout dans le monde du travail, que c'est online ou quoi que ce soit. Comme, tu te mets d'avoir ça ici, à un endroit où tu peux justement payer 150 000 $ pour une maison puis pas 1,2 million à downtown friggin' Toronto pour la même chose. C'est comme...
C'est juste, il y a de quoi de cool. Puis
ça,
c'est.
Parisienne.
Puis ça, c'est. Oh, hey, ben, je peux juste imaginer.
Non, mais, anyway, tu viens d'acheter. Comme...
Oh, tu viens d'acheter, là. OK, OK, nice.
3-4 mois passés, hein. À Montreuil.
Es-tu content? Un beau spot? Non.
Yeah.
Well, there you go. Ben, t'es content. Moi aussi, je suis content.
Ah, je serais content, moi aussi, d'avoir un appart à Montreuil en Europe. Ah, oh, moi, je trouve ça long à Venise, là. Mais j'ai bien, oh, no shit. Hey.
Ouais, non, ben, je pense une chose, c'est que j'ai envie de venir plus souvent. Comme là, comme mes parents vivent comme dans la région de Moncton, puis là, je suis en train de garder, tu sais, comme j'aimerais s'acheter un terrain, tu sais, puis comme bâtir un camp, puis comme quand est-ce qu'on vient, comme on n'a pas d'enfants encore, ben quand est-ce qu'on vient, puis on aura des enfants, ben on prend le camp, puis tu sais. J'ai envie de transmettre à mes enfants comme les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, comme j'ai envie de leur transmettre la forêt puis la nature. Puis c'est sûr que où est-ce qu'on vit, on en a, c'est pas où est-ce que tu as plus de forêt puis plus de nature. Il y a des forêts, il y a de la nature, comme on va souvent à la montagne, comme tu sais, je vais tous les étés quasiment, on va hiker dans les Alpes, ça. So, c'est quelque chose que j'ai gardé, comme j'ai toujours gardé ce côté comme dans les bois, tout ça. Puis que j'ai envie de transmettre à mes enfants, puis j'ai envie de vivre comme avec ma femme. Puis so, c'est pour ça que j'aimerais ça, acheter un morceau de terrain,
puis
peut-être
puis tu fais ça petit peu par petit peu. Puis comme je suis tout le temps au monde, comme quand les gens, je l'explique de même, je dis, nous, exemple à Pointe-Verte, on peut prendre une marche dans le bois, puis ça, marcher au cas, acheter du homard, celui qui est frais, qui sort de l'eau. Puis pour vrai, c'est justement pour faire le lien, comme je l'ai fait avec ma plus jeune cet été, juste on marchait chez mes parents, nous on a 17 heures à Pointe-Verte, on marche dans le bois, puis on marche au quai voir mes ongles, le homard sort de l'eau frais, puis on est là. Comme. Dans ma tête, c'est comme, ah, oh, c'est beau, tu sais, c'est beau de pouvoir montrer ça aux kids, puis juste cette bille de vie-là.
C'est une liberté.
Puis en même temps, tu peux aller à Moncton, puis ça bouge plus, puis comme c'est...
Mais c'est weird, parce qu'à chaque côté de ces histoires-là, il y a comme du positif, puis tu... Il y a comme un longing pour l'autre côté. Tu sais, comme quelqu'un qui est dans la grande ville, est toujours comme, man, ça serait comme ça, un terrain avec comme 17 heures, je serais assez bien. Puis après ça, tu as l'autre qui est comme sur le 17 heures, qui est comme, je suis assez tanné de bûcher,
je fais mes choses.
Je suis assez tanné de tondre, que ma sœur, je serais bien avec un bel appartement, juste un petit balcon, je pourrais boire mon espresso, puis je serais comme, je serais bien correct. Souci. On dirait que c'est assez de trouver un juste milieu, justement, où ce que vous avez votre appart, mais en même temps, tu sais, tu as ton... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu fais faire ta petite mini-home dans un container? Là, tu fais ton container camp sur 20 acres dans le sud de Moncton, dans le bois quelque part, où ce que personne ne peut te trouver. Tu viens ici 2 mois dans l'année. Trois semaines là. Puis comme tu... You gotta find that.
Mais je pense qu'important, c'est ce que toi, tu dis justement, c'est quand tu passes sur le pont à chaque matin, c'est de garder puis être « wow ». Puis c'est être capable de prendre le setback. Puis justement, quand on a envie ou on veut plus ou on veut différents rythmes de vie, c'est justement dire « ouf, je m'en vais travailler, je passe là ». Comme, tu sais, il faut l'apprécier, man. Puis je pense en vieillissant, on l'apprécie plus en plus. Là.
Parce qu'un sunset, c'est toujours le même soleil.
Quoi? That's right.
Quand tu vas à une plage sais, à quelque part, là, puis t'es le sunset.
C'est plus beau de Nouveau-Brunswick, fuck you. Hey, comment tant qu'on est?
C'était-tu ta dernière question, Sébastien?
Une autre question, Sébastien.
C'est 1h30.
Ouais.
On est à combien, là?
1h30.
On est-tu au call-off?
Ouais, moi, c'est pizza night à la maison ce soir.
Oh, pitié, t'as pas fait tes pizzas.
Moi, je vais au bootlegger après.
Oh my God! Moi, je veux mes pizzas. Quel est qui?
Il est 8h moins quart.
OK. Dernière question, Sébastien. Ou non, ça va être call-off.
Ça va être fini.
Quand est-ce que vous allez venir en Europe, toi, René?
Oh my God!
On va venir en Europe où, que, comme une fois que le climat global fait un petit peu plus de sens...
Le climat global.
Ou est-ce que, comme, ça, right now, t'as besoin de 3 passeports pour passer à travers de 14 aéroports?
Non, c'est pas si dur que ça.
Well, c'est le temps d'aller right now. Mais je gagne que tu dis, comme, parce que
c'est
un C.
C'est weird.
Tu veux dire avec la pandémie, puis ça?
Oui.
Ah, OK. C'est pas si dur que ça. Tu fais un test, puis whatever. Dans comme 6 mois, ça va être plus simple encore.
So,
les prochaines, on va tout en Europe. Let's go.
Earliest, ça
serait... Pas du jump booker des shows.
Yeah, été 2022 serait at the earliest.
Puis tu viendrais avec les filles?
Ben, c'est ça, c'est... Non, je veux pas les amener nulle part, eux autres.
Non?
Non.
C'est 5 000
mais la plus jeune n'est pas sur table.
C'est 5 000 piastres de vol.
Ouais.
Right? So, comme... Yeah. Tu sais, déjà là, je suis comme... Ça, c'est... Ben, c'est 1 000 piastres aller-retour, right?
Ça dépend. God. Ça dépend. Tu peux avoir moins que ça.
So,
bah, de Moncton, ouais, de Bathurst, oui, mais de Moncton.
Tu sais, comme pour 8 000 piastres, on aurait-tu un good time?
Yeah.
Pour un 10 jours à 14 jours?
Yeah.
Je connais une place à Montreuil que tu peux y aller.
Ça là, c'est fantastique.
Bon. Anyway, Sébastien, un gros, gros, gros plaisir de te recevoir, man. Comme...
C'était un honneur d'être sur le podcast.
Puis on est.
Oh, moi, je suis super content.
Puis
pour vrai.
Quand tu m'as dit, viens sur mon podcast, je suis comme. fuck yes!
Yeah. C'est cool, revenu au Nouveau-Brunswick, justement. Là.
As-tu déjà vu le thumbnail de leur podcast?
Non, non.
So, on peut-tu voler l'image que vous avez des têtes pour mettre sur notre thumbnail?
Ben,
tu peux me dire non.
Faut que tu trouves un designer qui va te le faire.
Non, je suis certain qu'il y a un website qu'on peut trouver. Non, c'est bon, c'est correct.
Mais on s'arrangera avec quoi ce qu'on peut voler.
C'était comme un super awesome plaisir de partager ce site avec quelqu'un d'autre qui fait ce site puis qui aime vraiment ça.
Non,
puis avec
toi. Puis moi, comme c'est cool, à la base, on veut apprendre. Puis là, moi, j'ai appris beaucoup. Puis je sais que les gens qui écoutent vont adorer ça. Puis c'est le fun d'être capable. Comme quand on avait eu ton autre chum qui travaille pour la NASA. C'était comme badass.
Ah, Samuel?
Oh, Stinko.
Oui.
Yeah.
Oui. Samuel, lui, il puis il dit, il y a des ordinateurs qui existent que le monde peut même pas imaginer qui existent. Je suis comme, tabarnak. So, awesome. Moi, je geekais parce que
c'était comique. Il faut que je l'écoute.
Ah, c'était cool. Anyway.
Merci beaucoup.
Un gros, gros merci. On vous aime. Et allez regarder...
Je sais pas pourquoi vous avez clappé. Vous êtes
je sais pas. De Zen Crypto Show ou...
There you go.
Qu'est-ce qui est l'autre?
Epicenter.
Epicenter ou de Zen Crypto Show si vous voulez commencer dans l'univers de la crypto-monnaie. Alors sur ce, merci beaucoup. On est partout. Google it. On vous aime.
C'est ça.
Bye, bye bye. Bye. Cheers.
Salut.